Alors, est-ce que vous avez tout compris?
Non, mon père.
À qui je dis? C'est moi qui dois dire ça?
Fermez les portables.
Ah non, là, c'est vous qui parlez.
Mais il ne me dit rien du tout. On est entre nous.
Ah.
Ça reste familial, heureusement. On est entre nous, hein, d'accord? Donc Minou, on va laisser Minou poser les questions principales, enfin celles qui sont plus ou moins que vous lui avez plus ou moins passées. Elle n'est pas obligée de les passer, elle va passer celles qui lui paraissent intéressantes. Et qui concernent nos préoccupations, n'est-ce pas? D'accord? Parce que le but, c'est d'en parler comme ça entre nous. Et si ça nous intéresse, nous, on suppose que ça va intéresser d'autres. On le suppose. Hein? Ben oui, on le suppose. On le suppose. C'est pas évident parce que. C'est pas évident. On n'est pas dans une situation très, très, très facile. Parce que bien sûr, il y a la question des enfants. Il faut s'occuper des enfants, je veux dire, non-nés, bon. Il faut s'en occuper, très bien, c'est eux qui ont un rôle. C'est eux qui vont avoir le rôle principal à jouer. Bon, ça, c'est ce qu'on a retenu hein, des précédentes méditations. La guerre eschatologique. La Troisième Guerre mondiale touche la destruction de. Toujours quand une guerre, il y a des ennemis, quoi. Il y a un camp et puis il y a un autre camp. Voilà. Donc la dernière guerre mondiale. Donc la Troisième Guerre mondiale, c'est une guerre eschatologique. Alors, c'est une guerre eschatologique. Ça veut dire quoi, une guerre eschatologique? Est-ce qu'on a... C'est ce qu'on avait dit la dernière fois. On avait dit, voilà, la première guerre, c'était dans les tranchées. C'est vrai, la Première Guerre mondiale, c'était dans les tranchées, c'était terrible, ça a fait... C'était pas drôle, c'est sûr. La Seconde Guerre mondiale, c'était une guerre de génocide. Et c'était une guerre idéologique, et c'était une guerre nucléaire. C'est vrai, ça s'est terminé par l'utilisation de l'arme nucléaire. C'est la Deuxième Guerre mondiale. Et la Troisième Guerre mondiale touche quelque chose de beaucoup plus fondamental et va utiliser, et a intention d'utiliser, pour la destruction de l'ennemi, des armes. Qui sont des armes beaucoup plus redoutables que l'atome, l'idéologie et le génocide. Alors voilà, donc et notre âme de Fatima, donc elle a simplement dit, voilà, s'il n'y a pas cette unité autour du pape, dans mon cœur immaculé, s'il y a quelque chose qui ne se fait pas, cette troisième guerre sera... Enfin, le démon, les mauvais, etc., ont l'intention d'en faire une guerre de réduction massive de la population mondiale. Bon, par des moyens qui ne sont pas les moyens antérieurs. Voilà, en touchant la procréation, la famille. La procréation, la sponsalité, par toutes sortes de moyens. Alors, tout ce qui va être immobilisé comme arme, ben, ce seront les moyens psychotroniques en particulier. Une guerre métapsychique, une guerre à partir des énergies, des ondes ondulatoires. L'intervention des puissances intermédiaires. Et puis, le désarmement de l'ennemi. L'ennemi, c'est les hommes, hein. C'est les enfants. C'est la famille. Donc, pour désarmer l'ennemi, tu fais quoi? Eh bien, tu vas utiliser tout l'arsenal. Donc, les démons. Alors, on a eu avec le Bataclan, quelque part, comme une espèce d'annonce. Hein, on va faire que la famille, parce que c'était des familles entières qui allaient là au Bataclan. Ils étaient 1500, par exemple. Hein. Les parents amenaient leurs enfants. Il y a des messages subliminaux là-dedans. Il y a une consécration à Satan. Il y a une manipulation ondulatoire. Il y a une préparation antérieure. Il y a eu un sacrifice rituel. Et il y a eu une utilisation à titre de bouc émissaire pour faire une unité en dehors d'une humanité, qui trouve son ferment dans quelque chose qui est bon, qui va vers le bien commun. Donc le ferment, c'est pour déplacer le ferment de l'unité sociale, de l'unité politique, de l'unité patriotique. Voilà, on va pas dire je suis Charlie, mais voilà, on va identifier la dignité de la France dans cette immolation, quoi. C'est terrible ce qui s'est passé là. Et il a fallu utiliser pour ça des armes. Vous pouvez pas soupçonner tout ce qui a été utilisé. Par les médias, la préparation antérieure, les services secrets, la manipulation de masse. Alors, si vous... Un des meilleurs moyens d'arriver à une manipulation... disons de guerre, hein, de destruction massive, c'est pas du tout donc à travers des coups de fusil, des coups de couteau, etc., ou de la mitrailleuse, ou même l'atome, la bombe atomique, c'est pas ça. C'est autre chose, il faut détruire l'homme. On va détruire l'homme, on va détruire la femme, on va détruire ce qui fait que l'homme peut se défendre. On va détruire sa liberté humaine. On va détruire ses trois puissances de vie spirituelle humaine. Et c'est pour ça qu'on va utiliser des armes psychotroniques. Et on va utiliser tous les modes de tous les modes de destruction. Et c'est pour ça que c'est très important. Et c'est là qu'on a été resté avec vous, là. C'est très important de pouvoir rentrer dans l'arsenal qui permet la victoire. Et l'ennemi veut absolument cette troisième guerre mondiale. L'arsenal, c'est quoi? Ben, c'est le Saint des Saints. La chambre où se trouvent les armes. L'endroit où il faut pénétrer. C'est le Saint des Saints du corps originel de l'homme. Et là où Dieu apparaît, dans l'instant, le lieu où il apparaît, à l'intérieur de, dans la procréation, dans l'unité sponsale, à l'intérieur de la famille, pour la production de la vie humaine. Là où Dieu réalise l'unité de la liberté originelle de l'homme à l'intérieur d'une intelligence, d'une liberté, une capacité à se livrer toute sa vie ensuite. Mais si vous arrivez à décomposer et à briser cette unité dès le premier instant de la conception, tous les hommes leur appartiennent, parce que ça veut dire que vous engendrez dès la conception des champs morphogénétiques dans les puissances spirituelles de l'homme, de la femme et de l'enfant, qui permettent aux puissances intermédiaires d'y pénétrer avec des armes psychotroniques. Et donc il n'y a aucun être humain qui peut échapper donc à la manipulation métapsychique, ontologique. La Troisième Guerre mondiale a pour but qu'il n'y ait aucun être humain qui puisse échapper, aucun. Et c'est pour ça que la petite de Fatima, Lucie, a expliqué, c'est dans l'unité spensale que se joue, que l'enjeu se situe, parce que c'est l'unité spensale qui permet, qui est le lieu de la production du champ de bataille, plus particulièrement le monde biologique de la génétique, là où Dieu apparaît dans l'apparition de la mémoire ontologique. Et la paternité de Dieu, Dieu est impliqué. C'est une guerre, cette fois-ci, dans l'homme, dans l'humanité sur la Terre, entre Dieu, Créateur, Père, Fils et Saint-Esprit, et Lucifer. Lucifer qui veut avoir plus, ou plus exactement, total mainmise, contrôle sur les libertés humaines, dès la conception. C'est ça, troisième guerre eschatologique. Et quand la Vierge à Fatima est apparue, c'était en 1917, comptez 100 ans, donc vous avez 2017. Elle dit à la fin, tout à fait à la fin, au dernier, mon cœur immaculé triomphera. Ça veut dire qu'on est mal barré, quoi. Hein, on le voit bien qu'on est mal barré. Alors, ce qu'on peut éventuellement. On peut éventuellement, évidemment, regarder les armes qui sont produites, le plan logistique, la logistique tachyonique, hein. La logistique ondulatoire, la logistique métapsychique. Mais quand on arrive à manipuler 1500 personnes prédésignées pour gesticuler dans les messages subliminaux dans un Bataclan, à se consacrer à Lucifer et à Satan, en disant « je donne ma vie et ma mort, j'arrive avec mes enfants ». Et ceci sous l'influence quand même de services spéciaux, dont je ne me garderai bien ici de donner l'origine géographique. En tout cas, c'est pas... Ça vient pas des saints. Hein. Ça vient pas du roi de France. Ça vient pas du grand saint qui, lui, va justement se mettre là. Il va s'interposer. Alors on peut dire aussi, oui, ah oui, très bien, c'est une guerre entre le véritable Israël de Dieu et la synagogue de Satan. On peut dire ça. C'est comme ça que saint Jean le dit dans l'Apocalypse. Voilà, donc on en était là, si vous voulez, nous en avons parlé ici, donc pendant les certaines méditations, on parlait de ce fait que si on ne fait pas d'acte d'adoration, alors on finit par perdre, par oublier que nous avons une intelligence spirituelle. Si on n'exerce jamais notre intelligence humaine spirituellement, l'intellect agent, alors à ce moment-là, si on n'exerce que l'intellect possible, et jamais l'intellect agent. On finit par oublier que l'intellect agent existe. Et du coup, eh ben, on n'a plus du tout ce mécanisme de défense de là où on est le plus fort contre le mauvais, contre les mauvais. C'est avec ce qu'il y a de plus grand dans notre dignité humaine, c'est là où on a une intelligence spirituelle. Notre intelligence humaine, elle est spirituelle. Nous avons trois grandes forces en nous. C'est l'intelligence, c'est cette lumière de l'intellect agent, celle qui passe par notre corps, mais qui la dépasse complètement. Hein, qui elle, est, elle a besoin du corps pour s'exprimer, pour s'exercer. Mais si on ne sait pas, si on ne sait pas, si on a oublié, ben, au bout de trois générations, et c'est le cas de l'humanité d'aujourd'hui. L'humanité d'aujourd'hui n'a les hommes, les femmes, à peu près à 100%, pas 100%, mais 100% moins epsilon, c'est-à-dire au moins une quinzaine de personnes, peut-être dans le monde, je ne sais pas, ne savent plus ce que c'est qu'un acte d'intelligence humaine. D'où la grégarisation des conversations communes. Vous avez remarqué que ce n'est pas très intelligent. C'est une grossièreté, une grégarisation effroyable. Les hommes d'il y a 2500 ans trempent dans leur tombe en écoutant l'intelligence des hommes d'aujourd'hui. C'est effroyable, la régression spirituelle de la lumière chez les hommes d'aujourd'hui. On n'a jamais vu dans toute l'histoire de l'humanité une grégarisation, un anéantissement si total de la puissance de lumière de l'homme. Jamais. Pareil pour les forces d'amour, oui.
C'est grave alors.
Ah, c'est grave. c'est grave parce que on a été créé quand même au départ. Regardez, 9 mois avant la naissance, il n'y a pas de cerveau, mais on est quand même dans un corps. On est dans un corps. Il se multiplie. Et de l'intérieur, notre âme, elle est spirituelle et notre intelligence est d'une puissance inouïe. 9 mois avant la naissance. Elle est contemplative, elle peut pénétrer, elle sait ce qu'elle voit. Elle la contemple, elle assimile ce qu'elle voit et elle en vit. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ce qu'on réussit à faire le dragon à 7 têtes et à 10 cornes, sur 3 à 4 générations, ça s'est fait en 4 à 5 générations, ça réussit à faire en sorte que l'intelligence embryonnaire n'existe plus du tout chez l'adulte, par exemple. Donc les hommes les plus intelligents du monde d'aujourd'hui, c'est les enfants non-nés. Ils sont évidemment, c'est sans comparaison, plus intelligents que nous, du point de vue de la force de la lumière, la vie contemplative. Sauf ici, bien sûr, il y a quelques exceptions, presque tous, vous êtes tous de très grands contemplatifs. On a oublié qu'on était des êtres humains. Ça, c'est une victoire très, très, très grande. 5 générations, c'est ça, c'est 100 ans. Hein? On a réussi donc à faire régresser les puissances spirituelles. C'est ce qui fait qu'un être humain, c'est un être humain. C'est pas une colombe, c'est pas une tourterelle, c'est pas un aigle. On dit que les éléphants sont très intelligents. Mais oui, je veux bien, mais... Et c'est un petit peu ennuyeux. Donc voilà pour l'intelligence. Il y a 3 puissances de vie spirituelle. On a une capacité d'aimer. On a, là, on dit ça, la voluntas, une capacité d'aimer. On a un cœur spirituel. Mais la tourterelle, les tourterelles, elles s'aiment, hein, mais elles n'ont pas de cœur spirituel. Elles ne savent pas ce que c'est qu'un amour spirituel. Elles ne savent pas ce que c'est qu'un amour substantiel. Elles ne savent pas ce que c'est qu'un amour humain. Elles ne savent pas. Elles se sentent bien incapables. Jamais les tourterelles ne vont au-delà du couple de tourterelles. Jamais. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous avez entendu parler peut-être? Jamais. C'est le cœur spirituel. Or, quand vous êtes un embryon, que vous n'avez pas encore de concupiscible, pas encore d'irascible, que les cellules nerveuses ne sont pas encore là, que les cellules cardiaques ne sont pas encore en train de pulser au 19e jour, que le cœur ne bat pas encore, même quand le cœur bat, je veux dire, vous avez un cœur spirituel qui fonctionne, et je tiens à vous le dire. Regardez Saint Jean-Baptiste. C'est lui qui perçoit l'amour du Verbe incarné, qui vient se nourrir dans le cœur de Jean-Baptiste qui pulse, de l'amour de bénédiction spirituelle qui se trouve dans le cœur de l'embryon à l'intérieur du sein d'Élisabeth, vient puiser de cet amour que lui, Jésus, n'a pas. Parce que son cœur ne bat pas encore. Et qui s'en nourrit, il se nourrit de l'amour qu'il y a dans le cœur de Jean, et il trouve un amour plus grand dans le cœur de l'embryon Jean que dans le sien propre humain. Vous vous rendez compte, c'est dingue. Et il réalise là le prodige du miracle, précisément, de la production de l'émanation d'amour entre dans la communion de deux personnes. Et je trouve ça très parlant que ça n'ait pu se faire qu'entre deux embryons. C'était pas pour dire que pour les êtres humains adultes, c'est impossible d'aimer humainement. Mais c'est pour dire, parce que tout ce que fait Jésus dans sa vie, c'est pour montrer où on doit se placer à la fin des temps. Parce qu'à la fin des temps, on ne pourra pas faire autrement. Parce que tout sera bouclé en dehors d'eux. Pour les adultes, si vous voulez mener une vie, une guerre adulte, la guerre est perdue. Elle est perdue. D'accord, tout à l'heure. Elle est perdue. C'est pour ça qu'il y a le mystère de la visitation. Ça, je vous invite à regarder le mystère de la visitation. Vous contemplez le mystère de la visitation, le mystère du rosaire. Voir ce que ça signifie, dire philosophiquement. Hein? C'est important ce qui se passe dans l'embryon, ce qui se passe dans les enfants. Or, les enfants qui ne sont pas nés, ils ont cette expérience-là et ils en ont la mémoire. Nous, non. Prenez des petits enfants qui ont 13 ans, 15 ans. Est-ce qu'ils ont la mémoire d'un amour spirituel, c'est-à-dire où le corps, l'âme et l'esprit sont embrasés dans la l'unité des deux, d'une manière humaine qui leur permet de respirer dans l'assouplissement, l'abandon, la paix, et ils sont capables du coup à partir de là de pacifier d'amour tous les espaces de l'univers? Est-ce qu'ils font cette expérience-là? Est-ce qu'ils sont capables de faire un acte d'amour humain? Est-ce qu'ils l'ont déjà fait? Oui. Est-ce qu'ils se rappellent l'avoir fait? Non. Est-ce qu'ils ont la vertu, c'est-à-dire la capacité de l'approfondir? Non. Donc cette deuxième puissance de vie spirituelle est très importante pour la guerre eschatologique, puisqu'elle détruit la possibilité, quand on va avoir 19 à 30 ans, elle détruit la possibilité qu'il y ait une unité sponsale. Parce que s'il n'y a pas d'amour spirituel entre l'homme et la femme, comment peut-il y avoir une unité sponsale? Comment peut-il y avoir sponsalité? C'est pour ça qu'on avait dit, l'Église, elle a fait tout le travail. Et elle a dit, voilà, faites des exercices spirituels de mise en place de la signification sponsale du cœur, du sang, de la chair, de l'esprit. Faites-le. L'enseignement est donné dans tous les détails. Combien d'intelligence ou de cœur spirituel humain sont rentrés dans cet appel de l'Église du Saint-Père pour l'actuer. dix-neuf personnes dans le monde depuis 40 ans, pas certains, pas ceux de langue anglaise en tout cas, parce que ça n'a pas été traduit. Même les résumés des résumés des résumés n'ont pas été traduits. Pas en italien non plus, pas été traduit. Ça n'intéresse personne, ça n'intéresse pas, même pas. Alors c'est marrant parce que moi je trouve un peu bizarre, parce qu'on voit tous les cathos, charismatico, dingos, etc. à la course, et à un moment je me suis converti, j'ai senti un amour fou pour Jésus et tout ça. Je cherche partout un père spirituel, alors je trouve un père spirituel. Où est-ce qu'il est ton père spirituel? Il a mis en place la signification responsable de sa vie? Comment est-ce que tu peux en faire un père spirituel?
Donc ce qui est important, c'est de mettre en place la signification responsable.
Ça c'est nos armes, c'est les armes dans la grâce catholique, c'est les armes de ceux qui veulent vivre du bien, qui veulent vivre humainement, qui veulent l'amour, la lumière et la victoire contre le démon. Ils veulent pas donner leur vie à la mort métallique, en se consacrant et en embrassant et en roulant une palette au démon, et en servant de victime expiatoire aux affidés qui dirigent nos nations.
Donc peut-être vous pourriez
nous expliquer pays.
Comment on fait. Peut-être vous pourriez nous expliquer comment on fait pour tout ça, là, comment on met en place.
Oui, alors figurez-vous qu'il y a l'intelligence spirituelle. Il faut bien donc apprendre à la elle n'est pas anéantie, mais on ne l'utilise pas. C'est comme si vous avez tout pour vaincre l'ennemi, mais vous ne l'utilisez pas. C'est facile, vous avez une espèce de d'instrument, vous pouvez appuyer sur le bouton, toutes les ondes de côté là-bas sont détruites. Mais tu ne l'utilises pas.
Ouais.
C'est ça le problème, ils ont toutes les trucs. Toi, tu ne l'utilises pas. Mais pourquoi tu ne l'utilises pas? On peut prendre autorité pour détruire toutes les forces psychotronique de l'ennemi, métapsychique. Mais on ne l'utilise pas. Et donc, il va falloir retrouver les forces natives de l'être humain. Parce que, et contre les puissances intermédiaires démoniaques, on est aussi mal. Hein. Donc, on n'est pas... C'est pas facile. Donc, il faut aussi avoir la grâce divine. La grâce sanctifiante. C'est pour ça que la Vierge a dit, attention, quand vous êtes arrivé là, attention, hein. Make a good confession, good communion and come back. Hein. Qu'est-ce que je dois dire, disait M. Ballinger. What I have to do to people? Alors, Sainte Vierge lui a répondu, en Louisiane, aux États-Unis, il venait avec un accent gallois, du pays de Galles. Well, I have to say to people, make a good confession, good coming, come back. Je trouve ça génial. Je me rappelle avoir entendu ça sur une bande. Il faut avoir la grâce sanctifiante, mais la grâce sanctifiante, elle ne peut pénétrer que dans la sève d'un arbre qui monte. Si tu ne sais pas utiliser, si tu ne sais pas où est la sève, comment tu peux rentrer de l'intérieur et couvrir, diviniser de l'intérieur, donner la force divine intérieure, ta grâce sanctifiante, à une émanation spirituelle humaine que tu n'as pas, que tu n'utilises pas, que tu n'existes, qui n'existe pas pour toi? Alors, c'est le problème. Donc, il faut aussi la grâce sanctifiante. Il faut retrouver, j'allais dire, la force de la vie contemplative, la force de l'amour spirituel, la force primordiale de la liberté du don originel. Il faut la retrouver à l'état pur et utiliser les trois et permettre qu'il y ait, donc, avec la grâce sanctifiante, l'association des deux, quelque chose de tellement... une restauration, une transformation, une récupération de toutes les forces de vie humaine et divine, chrétienne, parce que s'il n'y a pas ça, ne serait-ce que chez quelques-uns, c'est sûr que la guerre est perdue. La Vierge nous a dit, voilà, in extremis, à la fin, mon cœur immaculé triomphera. C'est pas le cas aujourd'hui, n'est-ce pas? Et donc il y a une troisième puissance, c'est pour ça que je n'aurais pas répondu tout de suite à ta question. Il y a une troisième puissance, c'est la mémoire ontologique, c'est la memoria dei. Et cette memoria dei, c'est la force que nous avions dans les 19 premiers jours de notre conception. Une force incroyable. Et ce n'était pas une force divine, c'est une force humaine. Il n'y a pas plus puissant pour la communication de toutes les forces de Dieu et toute l'attraction par aspiration des existences créées dans l'indivisibilité d'une force commune que dans les 19 premiers jours. Dieu est possesseur de cette, et il peut réaliser l'actuation de cette puissance dans quelque chose qui lui est personnel, à sa manière personnelle, dans son oui à lui, dans son fiat éternel, dans le temps. Et il faut qu'il retrouve cet état. Regardez, Jésus dit à la messe, dit Ecco tiescumque feceretis in mei memoria facetis. Faites ceci avec la puissance de la vie humaine qui commence avec moi 9 mois avant Noël. La puissance eucharistique n'a sa puissance que dans la puissance originelle embryonnaire du Christ 9 mois avant Noël. Et il nous en supplie, il dit rentrez là, pourquoi il dit ça hein? C'est quoi cette histoire de mémoire originelle? C'est quoi cette liberté originelle? C'est quoi cette puissance spirituelle qui fait qu'un petit embryon est plus puissant que à lui tout seul? Il est plus puissant que le démon. Nous avons été plus puissants que le démon et plus puissants aussi que Hérode. Nous avons été établis, et si on a été quand même par, un petit peu bêtement, on a été vers l'esprit du péché originel, vers un monde pris par le péché originel, c'est vrai qu'on a fait une erreur, mais ça ne nous a pas enlevé cette puissance. Cette puissance est toujours là. Et il faut apprendre donc à utiliser, si on a des yeux, il faut apprendre à utiliser ses yeux pour bien observer les choses. Il faut apprendre à utiliser ses oreilles pour bien utiliser les sons, etc. Le sens du toucher, tout ce que vous voulez. Eh bien, on utilise toutes nos puissances pour faire les choses d'une manière la plus habile possible. On utilise la puissance cérébrale. La puissance cérébrale, est-ce que c'est une puissance spirituelle? Non. Et j'utilise cette puissance cérébrale. Regardez les enfants, jusqu'à 25 ans, on leur fait faire 8 heures de formation, de transformation, de travail, d'exercice, de machin, de gesticulation, etc. cérébrale. Combien de millions d'heures on impose à nos enfants pour la gesticulation cérébrale, tandis qu'on leur donne à peu près peut-être 15 secondes dans la vie de l'éducation pour faire un acte d'exercice d'intelligence humaine. C'est là qu'on voit que notre... on est fautif quand même. Quelque part, vous voyez, c'est pas pessimiste, c'est un état, c'est un constat. Il y a trois puissances, ces trois puissances... C'est trois forces en nous, lumière, amour et liberté dans l'ordre du temps, qui font qu'on est un être humain. Et ces trois sont mobilisées lorsque on est dans la communion des personnes avec celui que Dieu met proche de nous. Et cette communion des personnes elle-même donc fait surabonder sa puissance par la grâce sanctifiante. Évidemment, avec ça, si on vit ça dans le bien commun du corps mystique de l'Église, je veux dire, le démon, la troisième guerre mondiale, elle est balayée. Hein? Balayée! En quelques minutes, les éléments, les tachyons, tout ça, balayé. Les réseaux harpes, balayé. C'est vrai? c'est comme ça. Alors, donc, où est-ce qu'on en était? Non, pour pas.
C'est que, qu'on réveille ça en nous.
Ah oui.
Et comment on fait?
Enfin, que, comment on fait pour réveiller? Oui. Ah ben là, ça, pour que.
C'est pas la bonne question.
Si, dans toutes les questions sont bonnes, non, mais pas toutes les questions. Les gens,
non,
est-ce qu'on se pose la question de savoir comment on fait pour exercer? Je crois qu'on n'a pas besoin de se poser la question. Il suffit de dire ça. On salue, on vous salue, hein, vraiment merci. À bientôt. Je pense que la question elle est superbe, mais elle est superbe. Évidemment, on peut rentrer dans des séminaires de philosophie, de métaphysique, etc., pour retrouver l'acte de l'intellect agent, l'acte de l'intelligence contemplative. On peut rentrer dans des noviciats. Mais c'est vrai, des retraites pour que, non pas guérir nos blessures psy, pour qu'une fois guéri psy, on soit encore plus psy. Et on fait des guérisons psycho-spirituelles pour que le spirituel soit encore plus fort dans les guérisons psy. Donc l'intelligence est au service du psy. Et l'humanité dans le bien, quand tout de suite il y a un drame, etc. Vite, la charité c'est vite pour faire une cellule de crise, pour que les gens qui sont bouleversés par la souffrance, vite, soient engloutis dans le psy. Et vite, on fait venir le psychanalyste de service, à la télé, partout. Dès qu'il y a un problème. On vit comme ça quand même, depuis 50 ans quand même. Hein. On est conditionné par ça, pareil dans l'école, pareil dans la famille. La maman, elle a des enfants, elle a un problème, on va voir qui.
De toute façon, on en met partout.
On va voir qui, alors. Et donc ça veut dire que quand même, il y a une perte, Je crois qu'on a perdu tout. On est désarmé, c'est ça, hein, on peut dire, on est désarmé. Alors, c'est pour ça que personnellement, je suggère qu'il faut apprendre à aimer en retrouvant un amour fou, inconditionnel. Peut-être pas exclusif, mais presque exclusif. Pour les enfants qui nous sont confiés et qui ne sont pas nés. Parce que eux, ils sont humains dans leurs actes. Oui, pour être psy, il faut qu'il y ait un début de développement cérébral et de réflexivité. Et comme ce sont les êtres qui, dans leurs actes, sont les plus humains du monde, il faut apprendre à les aimer, il faut apprendre à les rencontrer, à les découvrir, à faire l'expérience de leur vie spirituelle et de leur humanité, de voir comment ils aiment, comment ils restent libres dans la liberté du don, comment ils restent disponibles spirituellement, comment ils restent contemplatifs mystiquement, et comment il reste humain avec toutes les forces natives de leur humanité embryonnaire. Sachant que, bien sûr, ils ne sont pas nés. Mais qui continuent à grandir. S'ils ne sont pas nés, c'était il y a 22 ans. Et ils continuent à grandir. Puisqu'il y a des cellules staminales embryonnaires qui restent vivantes dans la moelle osseuse, le sang et le névrax de la maman pendant 50 ans. Donc leur corps reste vivant, à titre personnel, comme support de vie. Et vous savez très bien que le génome vivant de leur mémoire ATI, vivant, corporellement vivant, biologiquement vivant, porte en lui tous les développements Vous savez, les télomères des chromosomes, ils sont là et ils finissent et vieillissent, comme pour nous adultes qui sommes menés. Et le Concile de Vienne avait indiqué que l'âme de ces enfants se développe en fonction du corps vivant, hein, c'est l'âme, et la forme substantielle du corps. Et donc ces enfants donc, continuent à grandir parce qu'il y a encore quelque chose de vivant dans leur corps. Mais grâce à Dieu, vous voyez, les fonctions cérébrales, les fonctions du concupiscible, du racine, nerveuse, tout ça, les fonctions perceptives, réflexives et compagnie, ne s'exercent pas. Si bien qu'ils grandissent, ils ont 20 ans, 40 ans, 50 ans, et puis, mais ils n'ont gardé que leur force spirituelle native. Pratiquement pas des forces. Souvent, quand on fait tellement de psycho-spirituel, de kakuna, etc., quand on se dit, oh mon Dieu, ce qu'on leur a fait, il faut guérir leurs blessures, ils doivent être complètement traumatisés, ces gosses. Ils ont dû avoir une névrose abortive intime, un problème vraiment d'identité, quoi. Donc, il faut vraiment leur apprendre à pardonner à leurs parents, etc. J'en connais, hein. La projection, quoi, le transfert, c'est exactement le contraire qui est vrai. Ils sont spirituellement ouverts, il faut apprendre à les aimer. Pour moi, la première chose, il faut apprendre à les regarder. Il faut apprendre à les voir. Il faut apprendre à les découvrir, savoir qu'ils sont là. C'est d'autant plus facile s'ils viennent de nous. Puisqu'en France, d'après les chiffres officiels du gouvernement, les statistiques, je parle depuis 1970, il y a, en raison du port du stérilet, des formules antigestatives, des avortements cliniques, etc., des accidents, il y a par femme, en gros, entre 30 et 40 enfants non-nés. Par femme en France, en moyenne. C'est quand même pas mal. Depuis 70, ça fait 1,2 milliard d'enfants non-nés. Donc, vous n'allez pas me dire que vous ne connaissez personne dans votre famille ou vous-même. Je ne sais pas si dans votre fratrie. Donc ces enfants sont partis de notre sang. On s'en préoccupe quand même. Il faut les voir. Dis-moi, oui, c'est peut-être, j'en ai peut-être effectivement dans la famille, de en avoir 30 multiplié par 5, 150 à 200. Mais je ne les ai jamais regardés. Jamais. Jamais senti qu'ils étaient là. Ah, t'as pas senti. Oui, je sais pas, j'ai pas senti. Ah oui, j'ai senti une névrose abortive chez ma sœur. Mais l'enfant, non. Je perçois pas l'enfant. Vous voyez, c'est incroyable quand même ça. C'est étonnant. Il faut apprendre à découvrir l'enfant. Vous voyez, les premières fois qu'on a fait des cérémonies pour aider les enfants, les premières fois, ça a duré une trentaine d'années. Les premières fois, ces premières années, ça a duré 20 ans, et encore aujourd'hui, c'est pareil. Ces cérémonies, finalement, ont attiré du monde, mais pas pour les enfants, mais parce que ça guérissait les névroses abortives de la mère. Ça a obtenu une grâce de psychospirituelle, elles allaient mieux. Mais les enfants, à chaque fois, je leur dis, mais c'est cet enfant. Oh. Donner, c'est pas normal. Vous voyez, si vous êtes un être spirituel normal, vous cherchez pas la guérison psy. De celui qui fait le sacrifice expiatoire. Vous cherchez quand même, s'il est encore vivant, vous cherchez à faire respirer, à voir, à trouver où se trouve l'agonisant. Et c'est vrai, il est sur le bord. Il faut regarder ce qu'il a. Où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il a? De quoi il a besoin? Il faut le porter sur votre monture, sur l'âne, il faut le porter. Avec toutes vos forces, votre patience, votre durée, vous l'apportez jusqu'à la maison, jusqu'à ce qu'il soit en pleine santé. Vous regardez, vous ne passez pas à côté en disant « ben, je sais pas ». Le type qui a broyé ce type sur le bord de la route, il doit être mal dans sa peau en ce moment. Et tu continues la route, tu t'occupes pas du type qui est sur le bord de la route. C'est ça qui se passe dans ces cérémonies souvent. Ah oui, c'est pour la guérison, c'est pour redonner la vie à la mère, et puis qu'elle soit débarrassée par la confession, par la miséricorde de Dieu, de la blessure de son avortement. Et on, par rapport à l'enfant, non, c'est fragile ça. C'est grave. C'est très significatif en même temps. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire ces cérémonies. Il faut toujours réorienter ses prières et nos visions, notre considération, notre regard, notre contemplation, et pénétrer à l'intérieur, voyez, et ensuite les aimer, et ensuite retrouver leur manière à eux de conserver mémoire de leur liberté totale dans l'acquiescement de ce qu'ils vivent. Et de voir à quel point c'est spirituellement admirable, l'innocence divine originelle que nous avons, que nous conservons encore. Et du coup, on peut, du coup, en les suivant, comme dit Saint Thérèse d'Enfant Jésus, faire remonter à notre surface, dans toutes les cellules, les génomes animés spirituellement de notre corps primordial, refaire vivre comme eux cette liberté originelle. Hein? Et du coup, dans l'Eucharistie, faire rentrer la liberté originelle du premier instant, des premiers instants de Jésus dans le sein de Marie, pour conjoindre les deux et apporter une force rédemptrice, surnaturelle et divine à cette liberté qui est la nôtre, et à se conjoindre ensuite par l'âme, voilà, en s'engloutissant à l'intérieur de leur âme pour voir ce qui se passe et contempler ce qui s'y produit. Parce que lorsque deux intellects agents se conjoignent, il y a quelque chose, il y a une amitié, j'allais dire, dans la lumière, qui réalise une amitié de lumière, et qui fait que l'humanité devient tout à fait elle-même. Vous cherchez la vérité, vous voyez. Donc, je dirais, personnellement, l'un des meilleurs moyens de retrouver les forces natives de nos trois puissances de vie spirituelle, c'est de porter notre attention sur les enfants que nous avons eus, qui ne sont pas nés. Ou sur tous ensemble, ou sur un d'entre eux. De toute façon, c'est vaste communicant. Et puis on suit l'enseignement au fond de l'Église, mais aussi l'enseignement donc de la métaphysique de l'homme, pour voir, attention, que ce qu'on vit là, c'est pas imaginaire, c'est pas psychologique, et c'est pas métapsychique non plus. Il faut être en même temps attentif aux fausses voies d'accès. Hein. C'est tout un programme. Hein. On est d'accord. C'est vrai. Là, on est. Ça vous met dans un état. Ça nous rend muets. Hein.
En fait, il faut qu'on les remercie, ces enfants, d'être non-nés.
Je comprends bien. Hein.
Ouais, et, vous pouvez les remercier. Et même les mères qui sont là.
Ah, ben, les mères, vous savez, donc, je vais vous dire une chose, vous avez raison de dire ça. Vous avez raison de dire ça. Quand nous voyons le prêtre voit en confession quelqu'un comme ça, n'avait pas réalisé. Ça m'arrive quand même, parce que bon, je veux dire, quand il y en a, c'est pas difficile à voir quand même. Bon, alors, elle, la maman, elle s'en rend pas. Elle pense que non, il n'y en a pas. Elle a toujours tout fait tout bien, il n'y a pas de problème. C'est une nana admirable. Elle a toujours été remarquable. Elle a beaucoup souffert, elle a eu beaucoup de blessures, et elle est géniale. Voilà. Mais les autres lui ont fait du mal, mais elle, non. Elle n'a jamais fait de faute, jamais de péché, rien. Alors, le confesseur, quel est son devoir, si je puis dire, c'est de regarder quand même. De regarder s'il y en a. Il les perçoit immédiatement, il n'est pas idiot. Et donc, il essaie de faire découvrir à la mère qu'elle a des enfants. Oh, c'est pas si difficile que ça.
C'est pas tous les prêtres qui savent voir ces choses-là.
Oui, et là, oui, parce que pourquoi est-ce que là il y a l'oubli qui vient très vite dessus, hein, à cause du déni, hein, donc le déplacement, la cristallisation et la justification, et du coup après il y a l'oubli. Il y a énormément, des milliers de couches qui viennent par-dessus. On peut évidemment pas s'en rappeler. C'est la fameuse conscience de culpabilité, hein, qui produit donc des séquelles négatives de la conscience de culpabilité, qui fait qu'on oublie complètement ça. Alors bien sûr, chaque femme de France en a eu 30 à 40, à peu près. Et il n'y a quasiment aucune qui s'en souvienne. Donc, ça va faire peut-être partie du travail qu'on aura à faire pendant 22 minutes, hein. Le jour de la dernière demi-heure, un travail à faire, un travail collectif à faire considérable, n'est-ce pas? Peut-être qu'il faut s'entraîner, hein. Et pour que la mémoire revienne à la mère, il faut faire sauter les conséquences négatives de la conscience de culpabilité. Et pour faire sauter les conséquences négatives de la conscience de culpabilité, il faut leur dire, vous savez, vous avez des enfants, vous en avez conçu, et ils sont encore là parce que on explique le processus scientifique, biologique, elles sont encore vivantes, les cellules, tatitata. Mais s'il y en a un, ordinairement, elle se rappelle d'un quand même, hein, parce que surtout si ça a été en clinique, ça, elle se rappelle. Alors, elle dit, ben voilà. Si vous saviez l'état dans lequel il est, je vais vous dire, l'état dans lequel il est, c'est pas un état d'accusation, c'est pas un cri silencieux, ma mère m'a oublié. J'ai une souffrance horrible, atroce, c'est l'oubli de ma mère. C'est pas ça, il n'y a aucune accusation, il n'y a aucun mouvement de ce genre, parce que ce sont des êtres spirituels, humains, et ils sont au contraire très spirituels, très humains, ils n'ont pas eu le temps de rentrer dans le péché personnel, vous voyez, de la revanche, de la vengeance, de la souffrance, du rumine, ta souffrance, ta douleur. Tu engendres du coup une névrose d'abandon. Tout ça, ça n'existe pas. L'enfant n'a pas ça. Il ne l'a pas. Ça n'est pas possible. Et évidemment, je peux toujours projeter le truc, hein. Mais il faut dire à la mère, attention, l'enfant est dans un oui. La puissance spirituelle, la liberté du don, l'innocence divine, c'est essentiellement de dire oui. Je suis prêt et je me livre et je dis oui dans l'inscription du livre de vie. Je suis prêt à traverser tout. Et ce qui m'arrive, je le traverse encore. C'est ça qui domine dans l'âme de l'enfant. Pas dans l'âme des spectateurs extérieurs. Dans l'âme de l'enfant, c'est ça qui domine. Pas dans l'âme du psy. Ou du métapsy, parce que les métapsys, hein, les rois d'Ivaudan, etc., ah, ils imaginent plein de trucs qui se passent dans la névrose abortive de l'enfant. Et ça, il y a des textes là-dessus. Ça, là, il y en a. C'est tout faux. Très simple, c'est faux. Et ce qu'il faut comprendre, une chose, c'est que moi, personnellement, je ne dis pas que je suis l'infaillible, hein, mais c'est pas ça. Mais au moins, j'essaie de dire ce que philosophiquement est correct. J'éloigne ce qui est inutile et surtout ce qui est impossible. Selon les lois de la nature métaphysique d'un être humain commençant. Voilà. Et donc, parce qu'il faut un support corporel toujours, c'est toujours pareil, pour qu'il y ait réflexivité, névrose, etc. Il faut un support biologique pour ça. Et donc ces enfants, ils sont en fait beaucoup plus proches du fait qu'ils existent et qu'ils ont reçu l'existence grâce à leur mère. Donc dès qu'ils sont dans le regard de leur mère, ils voient toujours que leur mère continue à les porter vivants, et donc ils ont essentiellement, vis-à-vis de leur mère, une relation de gratitude, d'action de grâce. C'est grâce à elle quand même que j'existe, que mon oui se produit, et que cette vie spirituelle qui est la leur est dans la lumière, et qui contemple. Et parce qu'il leur a donné beaucoup de choses à ses enfants, parce que l'Église, elle existe, hein. Il y a quand même pas mal d'Eucharisties qui sont célébrées et qui leur donnent par torrent de la lumière venue de l'Église. Et ils sont, cette vie contemplative, ils le reçoivent, bien sûr, d'accord, peut-être par petites gouttes, parce qu'il n'y a personne qui les leur donne nommément, directement, ils s'envolent, c'est vrai. Mais n'empêche qu'ils reçoivent, ils contemplent, ils centuplent. Ils en centuplent, ça centuple leur vie contemplative, leur union transformante naturelle en sagesse, et ça leur donne une gratitude bien supplémentaire encore. À la rigueur, ils pourraient développer un sentiment de compassion vis-à-vis de leur mère et des êtres adultes qui survivent, ou de leurs frères et sœurs qui sont survivants, parce que peut-être qu'ils peuvent percevoir dans leur lucidité contemplative la grossièreté spirituelle de ceux qui ont survécu. Et la grégarité de la médecine psychiatrique ou psycho-bio, je sais pas quoi, métapsychique. Mais ils ont de l'amour aussi, hein, parce que ils ont cette capacité, bien sûr, d'aller chercher un amour qu'ils n'ont pas en eux, dans les autres, et se nourrir de l'amour qu'il y a dans le cœur des autres. Donc ils ont un exercice spirituel d'amour aussi, ça va. Et ce qui domine dans ces enfants par rapport à leur mère, c'est de la gratitude. Et donc, à partir du moment où la maman, je peux vous le dire, c'est vrai ça, à partir du moment où la mère, elle dit, ah bon, de la gratitude, ils sont... Ah, alors elle commence à dire, oui, mais j'en ai eu deux autres. Ah, oui. Et puis après, et à la fin de la confession, ça va, on a trouvé les 24. Et ça, c'est constant, hein, c'est extraordinaire, les mécanismes, hein. Il y a des lois, quand même, hein, dans la vie spirituelle d'une âme humaine. Et il y a une croissance. Donc, il faut apprendre, donc, la mère, elle doit apprendre à voir que l'enfant, elle n'a pas à projeter des sentiments de culpabilité ou de souffrance qu'elle a, elle, hein, dans un enfant qui n'en a pas. L'enfant a une gratitude et il existe. Primo cadit in intellectus ens. L'enfant, lui, c'est son existence. Son je suis, il se rappelle très très bien que son je suis dans le je suis de la paternité créatrice de Dieu et dans je suis de le verbe qui l'a illuminé à l'instant où il est venu en ce monde. Et cette dignité extraordinaire opère en son âme une dilatation extraordinaire. Il n'y a pas plus dilatant que la vie contemplative. La vie contemplative ouvre toutes les portes du corps encore vivant. Et il y a encore quelque chose de leur corps qui est vivant. Pendant 50 ans. C'est pour ça d'ailleurs que ils vont pas au ciel, puisqu'ils ne sont pas tout à fait morts. C'est sûr, ça. Alors, voilà, donc...
Pardon. Et alors, une femme qui a avorté, on va dire, ou qui n'a pas d'enfant, et qui demande, qui est travaillée par cette histoire-là, et qui demande, qui trouve un prêtre, qui lui dit, on va faire une c'est pas une bénédiction, on va pas dire ça, mais il fait quelque chose pour cet enfant parce que la mère l'a demandé. La mère n'est pas bien, elle le demande. Elle demande, oui. elle est mal dans, sa, dans son être.
Ah non, elle reste la mère. C'est pour ça qu'elle souffre tant qu'elle n'a pas retrouvé son enfant. Et tant que l'enfant ne l'a pas retrouvé, elle, voilà, avec un flux et un reflux d'âme à âme, d'esprit à esprit, de cœur à cœur, et de lumière à lumière. Hein. Et donc, tant que ce n'est pas là, il y a, c'est vrai, du côté de la mère, et bon, elle demande de l'aide, c'est normal, bon Dieu, je suppose. Pas forcément explicitement, mais implicitement. Bon, et vous, la question que vous posez, c'est qu'est-ce que le prêtre doit faire pour elle? Le prêtre ne doit rien faire pour elle. Le prêtre ne doit rien faire pour elle. Parce que le prêtre, c'est pas un psy, ça va? Alors vous devez demander pardon à votre enfant, vous demandez rien, vous devez guérir vos blessures, vous devez vous réconcilier, demander pardon, recevoir l'absolution, la confession, tout ça c'est très bien, tout ça c'est très bien, ça peut aider, le prêtre va aider, l'église va aider, Dieu va aider, Jésus va aider, la Sainte Vierge va aider, ça c'est sûr, ils vont aider, ils vont aider la mère, ça c'est probable, c'est évident qu'ils vont l'aider. Mais ce qui va aider le plus la mère, c'est l'enfant. C'est l'enfant qui aide le plus la mère. Donc le prêtre, directement, il dira rien. Il va dire, mais regardez votre enfant, regardez. Laissez-le. Laissez-le vivre. Vous êtes sa mère. Laissez-le vivre. Et l'enfant ne peut vivre qu'à avec elle. Et c'est l'enfant qui, du coup, elle va laisser liberté à l'enfant de vivre, elle va découvrir sa présence, il va y avoir une proximité, d'ailleurs une complicité maternelle, hein. Vous savez, la mère avec un enfant, hein. Une complicité lumineuse, une complicité maternelle, une complicité filiale. Il va naître à ce moment-là un courant d'amour, il n'y aura plus cette espèce de nécessité de dire « Ah, j'ai avorté cet enfant, mais qu'il s'en aille hein. !» Et je l'avorte une deuxième fois. Ah, puis 2 ans après, mais il est encore là, mais que ça s'en aille. Donc elle l'avorte en fait des milliers de fois cet enfant. Et donc, ce que l'enfant essaie de... Là où on peut, où elle doit s'aider elle-même, c'est de dire, on va laisser cet enfant respirer, on va laisser cet enfant vivre, bouger, se manifester, s'exprimer. Et je veux qu'il vive cet enfant. Et du coup, je vais faire vivre aussi moi ma respiration maternelle vis-à-vis de lui. Je vais lui redonner la lumière, mon affection, ma tendresse, ma proximité, ma présence, ma disponibilité. Et réciproquement, vous voyez, une réciprocité qui se fait à ce moment-là. Et du coup, je vais sentir très, très, très fort la gratitude qu'il a vis-à-vis de moi, sa mère. Qu'est-ce qu'il est content que je lui ai donné la vie, l'existence. Vous savez que cet enfant, il ne soit pas né à cause d'un avortement clinique ou à cause de, je sais pas, bon, d'un accident de bagnole ou à cause d'un accident d'une maladie. Est-ce que vous croyez que ça change quelque chose pour l'enfant? Est-ce que vous croyez que cet enfant, il a un traumatisme parce que c'est un avortement clinique et pas intentionnel? C'est exact. Exactement la même chose pour l'enfant. Pour la mère, non, parce qu'elle a fait un péché ou elle n'a pas fait de péché. Mais pour l'enfant, c'est exactement la même chose. Donc si Dieu, c'est là que c'est important la procréation, si Dieu a engendré en elle, à partir de son unité spensale, avec Joseph, j'allais dire, en plus, c'est le créer un enfant. Il l'a créé dans la gratitude universelle et de Dieu, et de la terre, et de l'univers, et du ciel, et du monde angélique, et du corps vivant de la mer. Voilà. Et donc il y a une gratitude. Cette gratitude d'exister va revenir à la mer si, dès lors qu'elle décide de redevenir la mer. Et c'est pour ça qu'on va toujours proposer aux mères. Si on est dans une perspective chrétienne, mais il faut faire l'équivalent quand on est dans une perspective médicale, humaine, métaphysique, ontologique, ça peut se faire en sagesse humaine, il y a l'équivalent. D'abord, il y a une réconciliation spirituelle, contemplative, amoureuse, tendre et incarnée avec l'enfant. Et du coup, ça se reconnaît à ce que, ça y est, la paix est revenue. Je n'ai plus du tout l'intention de ne plus y penser. Au contraire, je veux y penser tout le temps, librement. Hein. Le flux et le reflux se fait, et la croissance se fait dans la gratitude. Une gratitude et la vertu, du coup, de gratitude, d'action de grâce, ne cesse d'augmenter. Du coup, la vénération de l'enfant vis-à-vis de sa mère augmente. Du coup, si on est chrétien, l'esprit de piété aussi. Les dons du Saint-Esprit aussi. Et tout ça, ça ne cesse de grandir. Hein. Les vertus, le trapelli, la gaieté mutuelle, la joie de vivre ensemble. Et ça devient tellement vrai, tellement vivant. La maternité est tellement revenue à elle-même. Je me suis réconcilié avec ma maternité. Et cet enfant, bah, il vit pleinement de cette maternité dans l'action de grâce. C'est tellement vrai que du coup, il existe. Cet enfant existe enfin dans une famille. Il existe dans sa mère. Il existe dans la famille humaine. Et comme il existe dans la famille humaine, on ne peut pas vivre avec quelqu'un si on ne sait pas quel est son nom.
Ah oui, mais...
Et donc automatiquement, le signe que c'est pas psy, c'est que l'enfant, il va me dire quel est son nom. C'est pas moi qui vais lui imposer son nom.
Ah.
C'est l'enfant qui va venir me dire son nom. Moi, c'est Isabelle. Ah, c'était une petite fille. Et tu te réveilles d'un seul coup, comme ça, dans l'oraison, ou le matin, ou en pleine nuit, à 2h du matin. Patricia.
Ouais.
Une comme ça, elle s'est réveillée comme ça, avec 7 comme ça. Ta 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 ta. Elle s'est rendormie. Et les 7 à nouveau, le matin. Et elle s'est réveillée ensuite. Là, c'est pas pourquoi, parce que c'était vrai. Dès que c'est vrai, dès que ça y est, elle n'est pas dans un état où elle continue à tuer l'existence, la respiration vivante de cet enfant avec elle en elle, à travers dans notre monde. Son nom va être donné. Et donc, on va célébrer une deuxième messe. La première messe, c'est pour qu'il y ait une grâce quand même, que cet enfant puisse venir respirer en moi petit à petit, que ça devienne de plus en plus vrai. C'est que l'évangile de la vie puisse se déployer, quoi. Que le centre de gravité, ce ne soit pas, les séquelles négatives de la conscience de culpabilité, quoi. C'est pour ça que ça peut aider la première cérémonie, la confession, etc., la miséricorde, l'évangile de la vie. Mais bien sûr, on peut mettre des prénoms sur l'autel. On peut... Et donner des prénoms, et on va donner un prénom. Moi, je considère que ces prénoms qu'on donne dans la première cérémonie, sauf si vous ont été donnés par eux, c'est des surnoms, en attendant. Mais lorsque un à un, et d'ailleurs, ordinairement, c'est à la date anniversaire, si une maman en a eu, comme une que j'ai vue récemment, là, 28. Je dis, écoutez, vous prenez un an, 28. Ça fait presque 3 par mois. Donc, tous les soirs, vous mettez un coussin dans votre lit. Là, vous mettez un coussin. Voilà, tissé d'or, tu vois, de soie. Et là, vous le mettez là et vous dormez là. Ah, il y a le coussin. Ah, c'est vrai. Et je dis, mes enfants, là, moi, je veux quand même que... allez, je vous aime. Hein, oh là, que je vous aime bien. J'aime beaucoup. Ah, non seulement je vous aime. Je suis en train de découvrir l'amour, la lumière. Je suis même... que je suis une mère. Je suis en train de découvrir un père. Je suis en train de découvrir... je suis en train de découvrir la vie grâce à vous. Mais oh là là, mais c'est trop fort. Allez, on va prier ensemble, allez. Hop. Et puis, bon. Allez. Bon, dites-moi quand même comment vous appelez. Tous les soirs, tu fais comme ça. Et tu t'en rappelles parce qu'il y a un coussin. La mémoire joue un certain rôle quand même. Donc tu te rappelles. Ah, il faut te rappeler que le coussin te fait rappeler. Et bien à peu près, celle-là, elle en avait eu 28. Et effectivement, au bout de 7 mois, il y en avait 20. Bon, voilà. Il reste 4 mois. Bon, il y aura les 9 autres. Et ils donnent leur prénom un à un, comme ça, à la date, ordinairement la date anniversaire. Souvent, à la date anniversaire. Peu importe, c'est pas systématiquement le cas. Quelquefois, c'est la date anniversaire d'autre chose. S'il n'y a pas de règle absolue, la règle absolue, c'est que c'est l'enfant qui se manifeste et qui confirme à la mère qu'elle s'est réconciliée avec sa maternité humaine vis-à-vis de lui. Et c'est l'enfant seul qui peut le confirmer. De même que c'est l'enfant seul qui décide de naître et qui commence à provoquer hein, les comment vous appelez ça, les tractions à la naissance, de la naissance. Ça vient de l'enfant, parce que l'enfant est libre.
Et dans quelle mesure une tierce personne peut faire ça pour peut intervenir dans cette relation mère-enfant?
Par la prudence. Pour avoir les paroles ajustées, par le conseil, par la. Il faut donner des conseils, il faut dire là, tout simplement. Là, ce que je suis en train de vous dire, c'est. On dit voilà ce que tu devrais faire si tu étais. Moi, si j'étais à ta place, voilà ce que je ferais. Et les tiers, ils sont là pour aider les gens à prendre conscience. Ils me disent, ben oui, ben je vais le faire, moi, on m'a jamais dit ça. On peut pas le faire à leur place, d'accord? Mais on peut leur dire, voilà ce que tu dois faire. Mais on peut aussi adopter ses enfants, si la nana n'a rien à cirer. Hein. Lisez par exemple le témoignage de Lizeth Berger, qui est la sage-femme, hein, qui... quelquefois, elle rencontre des mamans qui ne veulent rien. Mais peut-être que cette sage-femme aussi de Lizeth Berger, c'est possible qu'elle était un peu psychorigide. Hein. Mais il faut, dans l'immense douceur, exprimer un petit peu à quelqu'un. Il faut faire sauter, je vous dis, les conséquences négatives de la conscience de culpabilité. Donc ça implique quand même qu'il faut lui parler spirituellement, enfin humainement. 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 Il ne faut surtout pas que ce soit un langage psy. Il ne faut pas s'attaquer à sa névrose abortive. Surtout pas. Parce que là, tu t'en sors plus, c'est fini. Et donc, c'est comme ça, je pense qu'il faut les aider. En priant du coup pour ses enfants, toi-même, tu vas avoir une relation avec ses enfants de plus en plus spirituelle, et après, tu parles à la mère. Tu sais, ses enfants, je les aime bien. Tu vois, parce que c'est vrai, ce que tu dis est vrai. Il faut la vérité, il faut la lumière, il faut le cœur spirituel et il faut la liberté, il faut la communion des personnes. À ce moment-là, tu peux t'adresser. Et là, ça doit commencer par rapport à toi. Tu ne t'adresses pas à la mère. Cette relation de charité ou d'amour ou d'amitié. Communion des personnes, d'abord par rapport aux enfants. Alors à ce moment-là, tu trouveras les mots pour lui parler à la mère.
Et on ne peut pas parler à toutes les mères qui ont avorté en France.
Pourtant, alors tu peux dire, écoutez, cette vidéo tellement admirable, là, elle a déjà été écoutée plus de 10 millions de fois, tu peux l'écouter toi aussi.
Oui, moi je connais un prêtre qui fait ça, avec des femmes qui ont besoin, qui demandent, il faut qu'il y ait une demande. Hein.
Oui, il y a plus de...
Il y a une demande. Qui fait ça, il le fait au moment de la messe, si vous voulez.
Ah oui.
On est tous ensemble.
Ah, c'est beau, il s'appelle comment?
Il s'appelle Franz.
Ah, c'est Franz, c'est le père Franz.
Ouais.
Oh, alléluia. Ah, c'est beau, ça.
Il nous fait ça pendant la messe, une petite messe où on n'est pas toujours très nombreux. Et on participe tous à cette
c'est bien, c'est un champ morphosisé. Il faut élargir le champ. Et au début, on n'est pas nombreux, mais il ne faut pas oublier qu'à l'avertissement, les moins de petits champs qui sont collectifs comme ça, de charité, d'humanité et de santé et de synthèse surnaturelle qui seront là déjà à état mûr, à état de perfection, hein, dans la septième demeure de sa perfection, vont se répandre immédiatement dans toute la nature humaine présente dans notre univers. C'est pour ça que c'est bien de s'y préparer. Et c'est pour ça que c'est dans la dernière demi-heure que la guerre eschatologique va complètement désamorcer toutes les bombes des affinités du mauvais. D'accord. Donc c'est pour ça que la deuxième cérémonie, ou disons, la deuxième étape, je pense, c'est qu'une fois que vous êtes sûr que cet enfant il existe pour vous, que vous qui fait votre préoccupation maternelle, ou paternelle, ou fraternelle, au même titre que les survivants, lorsque c'est sûr que c'est vrai à ce moment-là, oui, ça va, voilà. On va le consacrer et on va demander à l'Église qu'il obtienne la grâce sanctifiante qu'il n'a pas reçue, mais puisqu'il n'a pas été baptisé. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a dit la Commission théologique internationale à Rome, en disant ils ne vont pas au ciel, puisqu'ils ne sont pas, il y a le péché originel. Et donc, ils disent aussi, ben, une fois que ces enfants peuvent être... doivent même être arrosés, c'est pas le mot qu'ils emploient, de la préoccupation de l'Église pour qu'à travers l'Eucharistie, ils puissent être incorporés à la grâce qu'ils n'ont pas parce qu'ils sont encore dans le péché originel. Hein. Nul ne pénètre au ciel avec la tâche du péché originel. Et un avortement ne donne pas automatiquement la disparition du péché originel. Ça, c'est la foi catholique. Hein, d'accord. Donc, il va falloir donc qu'il y ait une deuxième cérémonie pour que cet enfant donc soit pris nommément, parce qu'il y a une relation physique. Attention, j'ai bien dit physique à la mère. Enfin, une relation réelle, comme on dit avec saint Thomas d'Aquin, une relation réelle vivante, corps âme esprit, de l'enfant à une famille de la terre. Et donc là, et il a un nom. Alors là, à ce moment-là, il est présenté sur l'autel et on le baptise, j'hésite pas à dire ça. D'accord, je baptise avec de l'eau, c'est pas le baptême du Saint-Esprit, mais je le baptise, je l'incorpore dans le corps mystique vivant de Jésus, je l'incorpore dans une vie humaine pleinement rétablie, dans la réceptivité de la grâce sanctifiante. Et il est d'un seul coup donc incorporé et rentre dans les capacités réceptives de tous les fruits des sacrements à partir de ce jour-là. Et ça, c'est drôlement bien, mais je dois dire aussitôt que j'ai été un petit peu déçu, enfin étonné, disons, de voir que... Il y a des enfants comme ça qui ont été présentés. On leur a donné le prénom, je ne sais pas, moi, Jean-Baptiste Samuel, enfin, appelez-le comme vous voulez. Ou voilà. Et puis, comme je vous ai dit, je crois, avant-hier, je rencontre la maman 300 après, quoi. Bon, par chance, moi, je me rappelle des 6 prénoms. Et elle ne se rappelait pas. Ça veut dire, ça c'est embêtant ça. Parce que ça veut dire, j'ai mis Jean-Baptiste Samuel, deuxième messe, spécialement pour lui, maintenant terminé. Je suis plus sa mère, enfin, ça veut dire je suis plus sa mère, mais ça veut dire que c'est embêtant. C'est embêtant, il faut que cet enfant, il est vivant, il vit pendant tout un jubilé de miséricorde temporelle de l'Église militante, je m'excuse, mais... Il a besoin de nourriture quotidienne, hein. Et si on est chrétien, il a besoin de la nourriture quotidienne pour la croissance de son union transformante surnaturelle. Il doit rentrer dans les processus de la croissance de l'union transformante. La purification, il doit être purifié des séquelles du péché originel, première demeure. Et il doit librement rentrer dans cette union transformante, deuxième demeure, troisième demeure, dans l'Église, ma mère, je suis la mort. Il doit rentrer dans la quiétude, la disponibilité surnaturelle, à la transformation des sept dons du Saint-Esprit, dans un océan pacifique qui rayonne dans tous les arbres de vie, de ceux qui sont comme lui. Assoiffé. Il est disponible aussi pour le passage de Dieu dans sa vie, embryonnaire en croissance, pour que Dieu passe par lui pour aider d'autres mères, d'autres pères dans le monde entier, etc., etc. Il doit rentrer dans la croissance de la sainteté chrétienne. Il a besoin pour ça d'une nourriture. Il a besoin que l'Église sa famille, continuant de penser à lui. C'est pour ça que nous avons... je crois que ça vient d'une inspiration de Dieu. C'est qu'avant qu'il y ait l'avertissement, et ça paraît absolument nécessaire, me semble-t-il, et ça va se faire, c'est que soit proposé dans le monde entier une messe perpétuelle pour les enfants non-nés, chaque jour. Donc, j'ai 18 enfants, j'ai 18 prénoms, les 18, si c'est en moi, peut-être que je vais devenir gâteuse, peut-être que... Hein, parce qu'on ne fait pas beaucoup d'auto-émo, hein, donc peut-être que mes fonctions dégénératives cellulaires font que je ne vais pas me rappeler à un moment donné, et je veux quand même me rappeler, je veux que quelqu'un s'en rappelle, enfin je veux que mes proches s'en rappellent, je veux que quelque chose soit fait tous les jours pour eux. Alors voilà, je vais les inscrire à la messe perpétuelle. Et chaque jour, la messe est dite. Lorsqu'un enfant est inscrit, son nom est sur l'autel, la messe est célébrée pour qu'il reçoive la communion eucharistique, c'est-à-dire la reste du sacrement, chaque jour, et c'est sur son nom, nommément, pendant 50 ans. Ça paraît nécessaire, puisque, j'ai tout fait, on a quelquefois ça. Ah oui, vous êtes chrétien? Ah oui, moi, mon père, j'ai tout fait. J'ai baptisé, j'ai fait ma première communion. Et maintenant, ça va, j'ai tout fait. Ben non, t'as pas tout fait. Il n'y a pas tout fait. Tu étouffes, puisque t'as pas tout fait.
Le pape nous invite à prier pour les enfants non nés.
Ah ben évidemment, évidemment. Bon, alors, je parle beaucoup, mais je vous empêche de parler. Oui. Alors voilà, je dirais donc qu'il y a trois étapes. Hein. Première étape, la restauration et l'entrée dans la vie humaine et dans la famille humaine de l'enfant. Deuxième étape, la circulation libre de la maternité à la filiation, et elle se manifeste dans ce fait que le nom est donné et que du coup on le consacre et qu'ils reçoivent donc la libération de la grâce sanctifiante qu'il n'a pas reçue à cause du baptême qu'il n'a pas reçu. Troisième étape, il faut qu'il soit nourri. Il faut qu'il soit nourri spirituellement et surnaturellement tous les jours, nommément. Donc, messe perpétuelle pour les enfants non-nés. Je réfère pour ça au site nonnés.fruit.fr, n'est-ce pas ? Messe pour les enfants non-nés. Vous vous inscrivez là, vous inscrivez vos enfants et vous inquiétez pas, leur prénom sera sur la messe perpétuelle.
Il faut forcément qu'il y ait un prénom parce qu'il y a...
Ah ben oui, il faut passer par la date numéro 2 avant de passer à l'étape numéro 3. Pour recevoir la communion eucharistique, il faut d'abord que tu sois baptisé. D'accord ?
Mais qu'est-ce qu'on fait de tous ces enfants qui seront oubliés pendant trop longtemps et parce qu'on ne va pas penser à eux ? Est-ce que nous, on peut supplier à...
Oui, alors ça, votre... Oh, mais oui ! C'est ça que vous vouliez poser comme question.
Ben exactement. Je ne vous coupe pas la parole. Hein.
Non, mais c'est sûr. Là, je m'adresse aux mères et aux pères. Moi, je suis d'une famille de 5 enfants, par exemple, et je sais que ma mère en a conçu 12. Il y a eu des fausses couches à répétition. Personne. Ma mère, mes frères et sœurs, elles s'en fichent. Mais moi, ça m'intéresse. C'est pas que ça m'intéresse, c'est j'aime, hein, c'est mes frères et sœurs. J'aime, c'est mon frère, c'est ma sœur. Et donc, je vais le faire. Je vais faire ça à la place d'eux. Hein. Donc, il y a une adoption de substitution. D'accord ?
Pareil.
Maintenant, pareil pour même si c'est pas ma famille et mon sang, je peux très bien. Alors, prenez par exemple, et ça c'est des questions annexes, je comprends, mais parce que c'est des cas particuliers, mais les cas particuliers s'en font quand même la majorité des cas, donc c'est bien d'en parler aussi. C'est le même schéma qui est repris à chaque fois pour la course finale, d'accord. Donc, pour tu prends une femme. Et dis-moi, j'ai mis le stimulé, c'était quoi ? C'était n'y a pas d'avortement. D'ailleurs, mon gynécologue m'a dit il n'y a aucun avortement. C'est un stérilet, anti-abortif. C'est pas mal, ça. Donc, je sais qu'il n'y a pas d'avortement. Bon, elle dit, oui, mais enfin, il y a quand même une petite gélatine à un moment donné. Ben oui, un amas cellulaire. Mais enfin, bon, il n'y a pas eu de nidation, il n'y a pas eu d'avortement. Donc, la main, maintenant, je vous assure que c'est pas un petit. La petite cellule était gélatineuse au départ, et puis l'amas aussi était gélatineux peut-être, mais c'est un enfant. Et il a une vie spirituelle beaucoup plus déployée dans la capacité et les puissances de lumière, d'amour et de liberté que la vôtre aujourd'hui. Tu vas aller arrêter de me raconter une blague. Hein. Vous ne devriez pas me faire gober une chose pareille. Je suis médecin. Arrêtez avec ça. Et donc, il y a plein de femmes, plein de familles, etc., pour qui ces enfants, en toute vérité, n'existent pas. Ils n'existent pas. Ils n'ont jamais vécu, ils n'ont jamais été créés par Dieu, et ils n'ont aucune vie, ils n'ont jamais eu de vie. Et c'est rien. C'est une pointe, une tête d'épingle, voilà, qui dilue. C'est tout. Alors, toi, tu es à côté, et tu regardes la philosophie. Là, cette fois-ci, c'est une affaire philosophique, puisque c'est l'existence même que je vois pas. Et donc, une maman qui considère que cet enfant n'existe pas n'est plus une maman. Le papa non plus. Et d'ailleurs, selon le droit naturel, c'est pas du tout le droit de l'Église ou quoi que ce soit, le droit naturel. Il y a même des juridictions comme ça qui indiquent que si des parents ont perdu substantiellement toute perspective parentale vis-à-vis de leurs enfants, c'est-à-dire que moi j'ai pas d'enfants, pas du tout, si d'autres parents à côté, les voisins disent mais ça c'est des enfants, les parents, les vrais parents disent mais ils les voient même pas, ils sont devenus cinglés, ils sont aveugles, ils sont cataleptoïdes ou somnambulicaux au parti en astral, etc., tout ce que tu veux, c'est-à-dire la majorité des gens d'aujourd'hui. Donc toi t'es le voisin à côté, tu dis mais ben, c'est vos enfants, ça, dis-moi, nos enfants, pas du tout. Et donc la loi fait que c'est le jugement de Salomon. C'est le procès de Maryville. La loi, le juge dit, c'est vous la maman. Puisque vous avez un regard vis-à-vis de cet enfant. Et donc le droit parental vivant, même de corps à corps, est transféré de la mère biologique à la mère ontologique. Et donc la maternité, donc elle devient la vraie mère. Tu deviens le vrai père. Hein. Tu deviens le vrai frère. Et comme tu deviens le vrai frère, il y en a une multitude comme ça, hein. Et du coup, tu peux avoir cette relation, tu les adoptes, et tu peux avoir cette relation. Il y en a qui le font. Il y en a qui le font, très gentiment. Et les enfants sont contents d'avoir des parents adoptifs comme ça. Et ils donnent leur prénom et la chose se fait comme ça. C'est bien, c'est sûr. Ça veut dire qu'il y a du boulot quand même. Parce qu'il y a sur les 200 milliards qui sont non-nés depuis 1970... Je ne sais pas combien il y en a qui ont été restitués à la vie de famille, à notre humanité, au corps mystique de l'Église. J'en sais rien, mais c'est peut-être pas la majorité, je crois pas. Enfin, je crois pas. Si, parce que les messes sont dites quand même pour tous, mais par contre, l'Église. Alors, d'après le droit naturel, tu deviens la maman, le papa ou le frère. Et c'est selon le droit naturel, à ce moment-là. Tout ce que les parents ont comme possibilité de faire selon leur droit naturel lorsqu'ils en assument la responsabilité est transféré à ceux qui reconnaissent l'existence de ces enfants comme des êtres vivants. Quelle est la famille qui reconnaît ces enfants-là comme des êtres vivants et qui, du coup, juridiquement, d'après le droit naturel, deviennent la mère réelle, en relation réelle de tous ces enfants. L'Église catholique. Il n'y a aucun autre organisme, aucune autre communauté, aucune famille humaine qui dit ceux qui sont considérés comme n'existant pas existent, ils existent, ils vivent, ils sont vivants. Si bien que l'Église catholique seule, avec le Saint-Père, sont les seuls à recevoir l'autorité parentale dans le corps spirituel qui est le l'autre, qui est le leur, je veux dire, et qui ont donc droit naturel, je veux dire, philosophique, c'est pour ça que peut-être que le bon Dieu a permis que le Saint-Père ait la couronne pontificale, c'est-à-dire l'autorité sur l'humanité métaphysique, pas sur l'humanité surnaturelle. Non, non, c'est l'autorité sur l'humanité, toute simple, philosophique. Et l'autorité, oui, peut-être à cause de ça qu'il y a cette tiare pontificale. En tout cas, l'Église est la seule qui, de droit naturel, peut devenir, à condition bien sûr qu'elle le décide, la maman, le papa, la famille, incarnée de ces enfants-là. C'est pour ça que c'est important aussi, et ça fait partie de la guerre eschatologique, qu'il y ait une étape extrêmement importante qui soit produite. Il y a eu des progrès gigantesques qui ont été faits, des pas prodigieux qui ont été faits dans ce sens-là, mais c'est pas fini. On ne peut pas dire que le Saint-Père est proclamé universellement sa paternité et la maternité de l'Église sur chacun de ses enfants non-nés. Il ne le fait pas, pourquoi ? Mais le jour où il le fera, d'un seul coup, tous ces 200 milliards, d'un seul coup, deviendront les enfants de l'Église. D'un seul coup. Du jour au lendemain. Et à ce moment-là, le Saint-Père pourra très bien dire, eh bien écoutez, voilà, je ne sais pas moi, chaque premier vendredi du mois, ou chaque 28 décembre de chaque année, tous ces enfants, nous leur donnons tous un prénom universellement sur toute la surface de la terre. Ils sont incorporés comme membres vivants de Jésus vivant dans l'Église militante de Dieu vivant. Et voilà. Et ça, ce jour-là, tu vois, ce jour-là, c'est tu désarmes à peu près à 95% toutes les armes luciférienne contre le cri silencieux qui désarme l'humanité tout entière aujourd'hui.
Pourquoi ? Donc là, pourquoi il fait un pas pour qu'on y arrive, en fait, en disant, en demandant.
Ah ben, on n'arrête pas de faire des pas. Je peux vous dire, il se passe pas 3 ans sans qu'on a, sans que le pape, pourquoi je dis bien le pape.
Je parle du pape.
Le pape ne fasse des pas. Mais pour l'instant, donc, oui. Donc c'est une étape très importante dans la guerre eschatologique. Mais c'est pour ça qu'on a fait, Minou m'a interrogé 5 fois de suite pendant 3 quarts d'heure. Pour dire, on a expliqué toutes les étapes que le pape a faites depuis 1917, allant dans cette direction-là. Hein? Donc croyez bien que c'est des étapes qui étaient impensables qu'on puisse faire dans les 19 siècles qui ont précédé. C'était impensable, mais impensable. Donc on a couru, mais alors un galop pas possible. Bon, alors vous comprenez bien sûr, hein, bon, que du coup, on met des bâtons dans les roues de la bicyclette de la papauté.
Oui, c'est sûr.
Pour que ça aille un peu moins vite, mais ça va encore plus vite, ne vous inquiétez pas, ça. Plus tu m'embêtes là-dessus, plus je te casse la gueule. Bon. Et voilà, c'est sûr. Bon. Mais en tout cas, c'est sûr. Pourquoi est-ce que le Saint-Père ne peut pas faire ça aujourd'hui ? Alors ça, ouais, c'est la question que vous avez.
J'essaie de vous la poser dans 5 minutes.
Ah bah alors dites-moi, formulez-moi. Oui, dites-moi. Oui.
Non, c'est ça y est, vous l'avez.
Non, dites-moi comment vous la
formulez.
Ah, pourquoi Saint-Père ne le fait pas alors ?
Voilà, qu'est-ce qui empêche ?
Qu'est-ce qui empêche alors encore ça ? Tout de même. Hein ? C'est bien ça votre question aussi, vous, hein, finalement. Mais l'Église catholique, elle ne peut pas. Si on te présente un enfant. Est-ce que vous pouvez baptiser mon enfant ? Mais bien sûr, vous avez la foi. Ah, ben oui. Et je voudrais que dans ma foi, il soit baptisé. Ah, ben très bien. Mais si la personne ne vous présente pas l'enfant, L'Église ne peut pas avoir des enfants. Alors l'humanité tout entière est pareil. Donc l'Église ne voit pas s'il y a un enfant ou s'il n'y en a pas. C'est cette situation dans laquelle on est aujourd'hui. Parce que l'Église n'a toujours pas. Hein? L'Église, à cause de gens que j'aime beaucoup, n'est-ce pas? Grâce, peut-être, je sais pas, à cause, enfin bon. Ne dis pas si l'enfant, par exemple, à partir du premier génome, a une âme spirituelle. Est-ce qu'il en a au bout de 10 jours, au bout de la nidation, au bout de le début de la gestation en elle-même? L'instant exact de la vie immortelle d'une âme spirituelle avec ses 3 puissances, avec sa liberté personnelle inscrite dans le livre de la vie en haut, tandis qu'il existe de traverser dans le fiat éternel sa vie divine embryonnaire, commence quand? Donc si je te présente moi des enfants alors que leur âme n'est pas encore créée, je ne peux pas faire une déclaration. Je ne peux pas faire une décision, je ne peux pas prendre possession de ces enfants si je n'ai pas dit, si la doctrine de l'Église du Saint-Père n'a pas voulu ou n'a pas pu ou a décidé de ne pas dire si oui ou non l'enfant a une âme spirituelle dès le premier homme. Tant que c'est comme ça, je ne peux pas faire une liturgie pour des enfants qui sans doute n'existent pas à une certaine période. Je ne peux pas faire une cérémonie pour des choses qui n'existent pas. Tant que ce n'est pas dogmatiquement, expressément proclamé. Et donc pour ça, il faut qu'il y ait la proclamation de l'animation immédiate des premiers génomes par le Saint-Père. Et quiconque n'est pas d'accord avec ça théologiquement ne fait plus partie de l'Église catholique. Eh bien, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Si vous prenez, par exemple, certains métaphysiciens, certains théologiens, certains biogénéticiens, certaines associations, la vieille, bon, c'est ma manière hein, de mal menée, n'est-ce pas? Bon. certaines académies pontificales, etc., certains théologiens, certaines universités de théologie, scolastiques, traditionnalistes, thomistes, etc., enfin 94% des théologiens catholiques disent non, dans le premier génome, il n'y a pas d'âme. Alors le Saint-Père dit, attends, je ne peux pas dire quelque chose qui ne fait pas l'unanimité, et donc il ne le dit pas. Il ne le dit pas. Et puis ceux qui sont les immenses spécialistes en métaphysique sur le principe, sur l'acte, sur le nerkaya, sur la substance, sur le réalisme de la personne humaine, si eux apportent, il y en a quelques-uns quand même. Je me rappelle, le pape Jean-Paul II avait demandé à toute une communauté, quand même 700 personnes, métaphysiciens, en groupe, il a donné comme mission, c'est ça que je voudrais que vous fassiez. Vous êtes constitué comme organe vivant de la communauté catholique elle-même pour apporter, j'allais dire, pour apporter votre contribution par un travail démonstratif, irréversible, de l'existence de l'âme spirituelle à quel moment, enfin, dans l'animation immédiate. Bon, ben, ce corpus, comme cette espèce de commando de Vercingétorix de Gergovie, eh ben, d'un seul coup, il a refusé d'envoyer ses femmes. Et donc c'est l'empereur qui a vaincu, et d'un seul coup, on n'a pas eu la bataille de Gergovie. Alors du coup, Saint-Père a été momifié sur sa chaise. Jean-Paul II, comme ça, momifié par ses métaphysiciens, qui sont des moines. Momifié. On a foiré la bataille de Gergovie. Alors que Vercingétorix, il a eu la victoire. Il a envoyé ses femmes au moins. C'est-à-dire sa sagesse. Sa sagesse du corps. Vous fort à la ruse. Tu ne mets pas de François, hein, tu glisses très très vite en dehors des routes du salut du monde. Les gens rusés. Voilà. Et le problème, c'est ça, ça a été terrible, parce que d'un seul coup, quand le pape Jean-Paul II a dit, mais attendez, c'est dans, quand le génome apparaît que l'âme spirituelle apparaît, mais il l'a dit dans un discours à des païens, il ne l'a pas dit dans un discours. Donc ça n'a aucune valeur dogmatique, aucune valeur expressive, aucune valeur, ça n'appartient même pas au magistère ordinaire universel du Saint-Père. Ça n'appartient absolument pas, c'est dans un cadre extérieur qui fait que, vous savez, il y a différents degrés dans l'autorité du magistère du Saint-Père, hein, et c'est même pas à l'intérieur des degrés d'autorité du magistère du Saint-Père, c'est en dehors. Mais il l'a dit en tant que philosophe à une communauté de gens qui sont laïcs, quoi. Hein? Et du coup, ces moines-là, par exemple, mais pareil pour l'IPC, pareil pour l'association Le Jeune, pareil pour les intégristes, pareil pour Opus Dei, pareil. J'en connais pas un seul qui. Ils ont dit bon, bah non. Nous apportons, nous, la démonstration à titre philosophique, je ne dis pas théologique, attention, philosophique, hein, que c'est impossible de poser qu'il y a une âme spirituelle dès le génome. Je n'ai pas dit théologique. Il y a des gens qui, théologiquement, sont d'accord que Dieu crée l'âme spirituelle dès le génome, hein, évidemment. Mais ceux qui font de la théologie scientifique ou de la métaphysique, non. Voilà. Et si bien que le résultat, c'est que, en tout cas, le résultat est là, c'est que l'Église, pour l'instant, à cause de ça, n'a pas défini dans sa doctrine l'affirmation expressive de l'animation immédiate, ça va. Tant qu'elle ne l'a pas fait, elle ne peut évidemment pas proclamer que ses enfants sont les siens. Et elle ne peut pas les arroser, je puis dire, de la justification de la grâce. Tu ne peux pas la justification de la grâce à quelqu'un si tu ne sais pas qu'il existe. La dogmatique fonctionne comme ça, hein, dans l'Église, hein, c'est comme ça. Hein. Donc il y a une étape préliminaire qui n'y est pas. Et c'est pour ça que, donc, pourquoi est-ce qu'elle n'y est pas? Parce que cette démonstration métaphysique n'existe pas. Elle n'existe pas. Enfin, officiellement. Elle n'existe pas officiellement.
Je peux poser une question, mon père, parce que moi, je ne comprends rien du tout.
Ah.
La question que je me pose, elle est très simple. Est-ce que mon papa, car mon papa met-il l'âme? Pour moi, mon papa, c'est Dieu. À quel moment il intervient, à quel moment il met l'âme? Est-ce que l'Église, qui est le garant quand même, hein, peut me répondre? Parce que c'est quand même incroyable. Alors je ne comprends pas qu'on puisse pas me répondre exactement. Hein, sans considérer que ça soit le pape, que ça soit les évêques ou les cardinaux ou tout, mais qu'ils peuvent bien me répondre quand même. Parce que je suis rien du tout, il ne peut pas me répondre. Alors c'est quand même incroyable. Voilà, j'ai plus rien à dire. Si on ne peut pas me répondre, je ne comprends pas cette Église. Je ne comprends pas Dieu. Alors tous ces représentants de Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Voilà, j'ai plus rien à dire.
Bon, alors, les représentants de Dieu, ils donnent le temps, parce que l'Église est une vieille dame. Elle prend les choses une à une. Elle met au monde le troisième après avoir mis au monde le premier et le deuxième. Et l'Église suit un ordre de sagesse. Elle suit aussi le développement de la vie. Donc d'abord, elle attend qu'il y ait une démonstration métaphysique solide, irréversible. Sinon, elle ne peut pas développer une expression dogmatique universelle. Et ça, c'est le premier et le deuxième. Et tant qu'elle n'a pas déployé une définition dogmatique universelle, elle ne peut pas déployer non plus une fécondité surnaturelle liturgique pour la justification. Ça, c'est le troisième nez. Donc elle attend. Et pour l'instant, voilà, elle est en train de digérer 30 ans de travail pour l'expression d'une démonstration métaphysique irrenversable par induction analogique synthétique. Elle est en train d'essayer de la digérer, de voir si elle est véritablement irrenversable métaphysiquement. Si elle est irrenversable métaphysiquement, l'expression dogmatique vient tout de suite derrière. Expressive. Et à ce moment-là, effectivement, seulement, voilà, et à ce moment-là, oui, elle peut adopter ses enfants comme étant les siens, automatiquement. Et c'est le désarmement total de la guerre eschatologique finale. Seulement, voilà, petit problème. Le petit problème, c'est pas le petit problème, c'est que s'il y a cette démonstration philosophique, métaphysique, irrenversable, ça veut dire que on sait exactement où se trouve et quand se trouve le Saint des Saints de la présence créatrice paternelle de Dieu dans notre univers. Et donc on sait où est le lieu de la victoire de Lucifer ou de la victoire du cœur immaculé de Marie dans la troisième guerre mondiale. On sait exactement où est la cible à abattre pour l'appartenance à Lucifer de tous les êtres humains sans exception. Donc l'Église, dans sa sagesse, attend le dernier moment pour que cette cible, n'est-ce pas, ne soit pas prenable. C'est une manière à moi de penser, mais je ne suis pas le pape, moi, et je ne suis pas docteur de l'Église. Mais j'arrive, parce que j'ai la foi, si vous permettez, à exprimer de toute façon une réponse infaillible, ou qui est infaillible au moins en puissance, même si elle n'est pas en acte. Parce que je ne suis pas le pape. Mais une chose est sûre, c'est qu'on est en pleine guerre. Et il faut être extrêmement rusé. Et donc si tu dévoiles tes batteries principales, c'est-à-dire où se trouve la cible sur laquelle ils doivent rentrer, tirer, et de manière que la guerre est terminée, tout est à Lucifer et tout est aux affidés, c'est peut-être pas si intelligent que ça. Donc l'Église dit, on va attendre un peu. C'est vrai que les deux sont ensemble, hein. Si Kutsi Meshomem, je rentre dans le sanctuaire de la procréation, le Saint des Saints réservé à Dieu seul, dans l'instant et le lieu où il apparaît. C'est vrai que si j'arrive à rentrer, hein, sur le toboggan métapsychique de ondulatoire, à l'intérieur de ça, en engendrant des champs morphogénétiques, hein, qui pénètre là pour dévaster l'union entre les champs morphogénétiques de la créateur de Dieu unifiant l'univers entier et sa relation avec la liberté humaine de toutes les natures humaines existantes. Si je brise cela, c'est ça, j'ai aussi mes chemins, et bien à ce moment-là, la guerre est perdue. Le troisième secret de Fatima, c'est de dire, c'est une bombe atomique, j'allais dire, transcendantale. C'est le tachyon transcendantal qui est attaqué pour être brisé dans les champs morphogénétiques de notre monde. C'est la lumière unitive du diaphane cosmique qui va être attaqué, qui est l'objet, j'allais dire, de la guerre eschatologique mondiale. C'est ça ce qu'a dit Lucide Fatima, le cardinal Caffara. Et donc, il ne faut pas faire n'importe quoi. Je pense, moi, quant à moi, qu'il faut investir pour qu'il y ait un bouclier, cette cible si fragile. Mais on sait depuis 2005, à peu près, que cette cible est là. Depuis 1998, avec le Saint-Père, mais on le sait depuis 2005 au niveau mondial. Et on sait depuis 2005 que la guerre eschatologique a l'intention de s'autoriser à rentrer et à briser les champs morphogénétiques de cette origine de la puissance unitive, créatique, pacifique de Dieu dans tous les êtres humains et réciproquement. Donc d'un côté, il y a la maternité vis-à-vis des enfants nés, puis d'un autre côté, il y a la paternité métaphysique. Les deux ensemble, par l'unité sponsale, réunis, font la force de la famille. Et c'est pourquoi il y a aussi un autre aspect à la guérison catholique mentale. Il faut absolument détruire les forces natives primordiales de la famille. C'est pourquoi on a parlé d'abord aussi, une autre chose à faire, c'est aussi de mettre en place la signification responsable du corps pour la restauration, la réapparition ou l'apparition tout court de la transactuation surnaturelle responsable dans chaque sacrement de mariage. Donc vous voyez, il y a quand même plusieurs corps d'armée. Hein. Il y a la navale, il y a les troupes terrestres. Les troupes aériennes. Et en fait, les choses ne sont pas si compliquées que ça. Elles sont même très simples. C'est pour ça que Saint-Hildegarde dit « Réveillez-vous la nuit et prenez autorité sur ces 5 terrains de combat pour dégoupiller, pour découpiller l'adversaire. » Donc on baptise toutes les nuits, évidemment. On prend possession. Et on investit le Saint des Saints de la paternité vivante de Dieu, hein, de manière que quand il tire, hein, la porte, il sera laissée sur la porte du nord, pénètre pas plus. Toutes les nuits, il ne faudra jamais lâcher. Et tous les jours, une messe pour demander pardon pour la transgression suprême. Tous les jours, la puissance eucharistique avec les 200 milliards de fois. S'il y a d'autres moyens au niveau de la toute petitesse de notre prise d'autorité comme roi fraternel de l'univers, écrivez-nous, ça nous intéresse. On les cherche depuis environ 50 ans. Donc écrivez-nous, ça nous intéresse. Voilà, c'était ça la question que vous vouliez poser, c'est ça? Ou bien j'ai répondu complètement à côté de la
non,
question?
Non, c'était
mais...
parfait.
C'était parfait. Est-ce qu'il y a autre chose?
Je sais pas.
Est-ce qu'il y a autre chose?
Je sais pas, est-ce possible de lire les questions écrites?
Ah, voyons.
Il y en a beaucoup et il y en a qui ne concernent pas trop. Moi,
je vais vous dire
comme ça. Vous
ah, bah non, non.
Pourquoi vous aviez envie de parler?
Faites votre boulot,
mais je veux bien faire mon boulot, mais allez-y. C'est long, là. Alors, j'ai celle-là.
Moi, par exemple. Hein,
j'ai eu un témoignage d'une mère de famille qui avait une relation très difficile avec ses deux enfants. Elle a été voir un père exorciste qui, après un entretien et de longues prières, a eu la révélation que cette femme avait déjà eu 2 enfants dont elle avait avorté. Dès que cette femme a de nouveau accueilli ses 2 premiers enfants avortés, la relation avec ses 2 derniers enfants vivants s'est immédiatement améliorée.
Oui, ben, donc bon. C'est pas une question, c'est un témoignage.
C'est pas une question.
Bravo.
Alors,
bah, si ta maternité, qui est à moitié bouchée, complètement débouchée, eh bah, ça va mieux avec les autres qui sont survivants, évidemment. C'est sûr.
Je lis encore.
C'est pas dit que ça...
Parce que j'ai pas lu avant.
Allez-y.
Alors, un homme a donné son accord pour un avortement à la femme qu'il aimait. Cette femme est ensuite devenue son épouse en Église. Le ménage a divorcé et l'homme s'est converti. Dès qu'il a compris la gravité de cet accord d'avortement, l'homme a demandé le baptême spirituel de cet enfant qui était une fille et qui a reçu le prénom de Marie pour son baptême spirituel. Sans l'accord de la mère qui n'est pas dans la foi. Plus tard, par une âme privilégiée, l'homme a appris qu'il n'était pas le père biologique de cet enfant, qui en fait était le fruit d'une infidélité.
Oui, et alors
mais,
oui.
Y a pas
Eh bien, c'est très simple. Le père, lui, est le vrai père de l'enfant, même s'il n'est pas le père biologique, puisque le père biologique pense que cet enfant n'existe pas. Ce père-là sait que cet enfant existe, et il décide d'en être le père, et donc il en est le père.
D'accord.
Autre question.
Un baptême spirituel peut-il être demandé par un tiers qui n'est, ben vous l'avez, ben on a déjà répondu,
oui.
Qui n'est pas un des parents biologiques? Est-ce que ses enfants meurent quand la mère meurt?
Ah, ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question, oui, oui. Ah, ça, c'est une très chouette question. Oui, parce que, bon, ces enfants, ils sont conçus. Puis, ils se multiplient des millions de fois, des dizaines de millions de fois, des centaines de millions de fois. Ils multiplient, ils délestent, donc, de leurs cellules staminales embryonnaires. Puis ensuite, ils naissent, mais il y a toujours les cellules staminales embryonnaires dans le corps de la mère qui restent. Dans le sang et dans le névrax, et je veux dire surtout dans la moelle osseuse. Donc voilà, donc chaque mère, même si les enfants n'ont pas avorté, ils ont ces enfants, bon, voilà, vous avez eu 7 enfants, plus 2 avortés, bon, bah, vous avez 9 enfants présents corporellement en vous, dans leurs cellules staminales embryonnaires, ça va ? Et pendant 50 ans. Et ces cellules-là sont vivantes, et elles portent quelque part un fil. Un fil, j'allais dire, sans rupture, hein, un fil continu de lumière et de vie, de l'enfant à, par là, où le corps, s'ils sont vivants, s'ils sont pas avortés, s'ils sont pas nonnés, et s'ils sont nonnés, avec l'âme. Voilà, donc très bien. Alors la question c'est, et ces cellules staminales vont durer une cinquantaine d'années, d'après ce que dit le professeur Mancuso, hein, cellules staminales embryonnaires, c'est drôlement beau de voir ça, d'accord. Du coup, grâce à ça, l'âme de ces enfants bah, grandit, bah, 30 ans après, ils ont 30 ans, etc., et leur visage, tout. Ah oui, pas de chance, 3 ans après l'avortement, la mère est au Bataclan, et puis... Ben oui, la mère est au Bataclan et puis elle meurt. Bon, le sacrifice rituel à Satan, organisé par l'espèce Nats d'Orient, n'est-ce pas, marche bien.
Alors.
Et donc les cellules staminales qui sont en elle, qu'est-ce qui se passe? Alors le corps de la mère meurt. C'est vrai, les cellules vivantes et biologiques de la mère meurent toutes. Hein. Toutes. 4 jours après, il n'y en a plus une seule qui soit vivante. Et en plus, tiens, on la passe au four crématoire. Donc, hein. C'est quand même quelque chose.
Oui.
Voilà. Écoutez, je ne suis pas omniscient, d'accord, mais quand même, on peut quand même suggérer quelques petites choses, quelques petits points. Je dis, moi, je préfère me situer par rapport à la cause finale. Je me situe par rapport à la cause finale. Je me situe dans la Jérusalem spirituelle de Dieu. Je me situe dans l'ouverture du cinquième saut de l'Apocalypse. Je me situe dans le cœur immaculé de Marie, dans son triomphe à la fin. D'accord ? Je me situe dans la paternité, hein, du nouvel Israël de Dieu. Je me situe dans cette victoire des apôtres des derniers temps jusqu'au vol libre, dans les noces de l'agneau. Et là, si je me situe là, je veux dire, on est dans le miracle des trois éléments et l'écoulement du corps spirituel venu d'en haut dans notre corps primordial. De sorte que, pour moi, si on vit par anticipation, mais même déjà au cinquième saut de l'Apocalypse, notre génération, et c'est un des aspects de la guerre victorieuse du grand saint des temps d'aujourd'hui, du grand monarque du nouvel Israël de Dieu au milieu des multitudes, c'est que j'obtiens de fait, par le fait, et dans le réel, même biologique, tachyonique de notre terre, j'obtiens qu'il y ait de la Sainte Famille glorieuse, des cellules biologiques, staminales, embryonnaires, glorieuses, dans le corps, bref, du corps, le corps spirituel s'écoule dans les cellules staminales embryonnaires de ses enfants. Vous comprenez ? Et c'est la théologie mystique du corps. Hein. quand la fécondité glorieuse, c'est ça pour ça que l'Église a d'abord prononcé le mystère de l'Immaculée Conception, puis de la faillibilité, puis de l'Assomption. Du coup, la fécondité du corps maternel de Marie devient royale. Donc, je peux très bien, si mon corps s'engloutit en elle, il y a un flux et un reflux, et du coup, des cellules émanant de la famille glorieuse assumée de Jésus-Marie-Joseph engendre à l'intérieur de moi, dans mon corps terrestre, un corps spirituel venu d'en haut, qui est reçu dans mon corps actuel, réceptif et disponible par rapport à l'unité du corps mystique de l'Église. Ça va? Bon, et bien ça, ces cellules stamines, ces cellules, le corps spirituel venu d'en haut, celui-là, il est indestructible. Il est indestructible. C'est pour ça que dans l'eschatologie, avant qu'il y ait la définition dogmatique, il faut qu'il y ait la mise en place du corps spirituel une en haut pour tous ses enfants, c'est 200 milliards à chaque messe. Et ça, nous avons autorité pour faire ça. De sorte que si la mère meurt, vous inquiétez pas, ses enfants gardent quelque chose biologiquement, ne serait-ce que du plan tachyonique, de toute façon, de leur corps spirituel venu d'en haut, et donc ils ont encore quelque chose qui relève de la matière primordiale dans leur âme qui doit encore continuer leur plein développement, épanouissement dans le combat spirituel de l'Église militante. Je réponds pas parfaitement à la question, mais un peu quand même.
C'est-à-dire que leur corps spirituel venu d'en haut se met en place beaucoup plus vite que pour nous.
Pareil. Pareil. Pareil, les lois de naturel du corps biologique restent les mêmes, parce que la sagesse créatrice de Dieu ne change pas ses lois. C'est pour ça qu'il a fallu 19 ans pour Saint Joseph, pour être la source assumée de la création de l'Immaculée Conception. Il a fallu 19 ans. Parce que c'est le temps qu'il faut. Il faut 10 ans plus 10 ans. Vous avez compris. Vous savez pourquoi en tant que médecin, hein?
Moi, je peux continuer à lire.
Ah ben voilà. C'est pas.
Alors, c'est pas comment. Comment faire pour casser une consécration satanique sur un enfant innocent? C'est la question qui est marquée.
Ah. Ah, comment faire pour casser? Très. Question très importante. Elle est très importante, puisqu'il y a des enfants qui sont conçus pour être consacrés à Satan par leur mère, pour être donnés à des prêtres lucifériens, à des personnes du degré de nos chères fraternités, nos chères fraternités, chers ateliers. Et il y a évidemment, donc, c'est pas une légende du tout, hein. Et c'est pas du conspirationnisme de dire ça, parce que moi j'ai des témoignages oculaires en tant que prêtre. Je ne suis pas le seul en plus. Bien sûr qu'il y a de la pédocriminalité occulte dans les ateliers et dans les fraternités de ceux qui ont le pouvoir et les affinités de Lucifer. Et il n'y en a pas peu. Et donc, vous savez, bon, ça je vais vous dire un truc qui n'est un secret pour personne, puis c'est officiel. Quand vous arrivez déjà au 8e degré, c'est pas un grand degré, vous devez consacrer vos enfants. Vous faites une assignation de vos enfants au sang du corps mystique dans lequel vous entrez. Et même, vous devez les donner au 10e degré ou 11e, ça dépend, hein, si vous êtes dans quelle loge, bien sûr. Hein. C'est pas pareil, le Grand Orient, la loge d'Écosse, machin. Bon, je passe sur ces détails. Mais en tout cas, à un moment donné, je dois, par un rituel bien spécifique, considérer que mes enfants sont à la merci, vie et mort, des vénérables si je trahis. Mmh. C'est comme ça, je crois, qu'on a retrouvé le fils de M. Fontanet pendu dans sa cellule au séminaire de Rome. Je donne droit sur mes enfants, vie et mort, si je trahis. Et il y a... c'est comme ça. Et vous savez, je suis parti à une commune, je partais à une... cisterciens, bénédictins, différentes congrégations. J'ai vu, moi, des gens qui sont entrés dans les ateliers. Ils ont fait leurs premières initiations. Et puis, ils ont dit, bon, ils ont fait admettre que c'était pas la peine qu'ils continuent, puisqu'ils rentraient dans la vie monastique, catholique. Mais les assignations, les sceaux, les rituels qui ont été opérés, est-ce qu'ils ont été brisés, arrachés? Non. Et ils rentrent à l'intérieur, et qu'ils le veuillent non, ils n'en peuvent rien, ils restent des taupes. Et ils font un mal fou. Ils détruisent tout, sans même s'en rendre compte. C'est très très grave d'accepter quelqu'un qui est passé par là sans le faire passer par au moins 10 ans d'exorcisme, de libération et de renoncement, et aussi de liturgie spécifique pour inverser en consécration de sainteté. Et ces rituels-là, un à un, et donner toute l'autorité à la congrégation à ces gens-là, c'est diabolique. Parce que très vite, au bout de 2 ans, c'est eux qui dirigent la dite congrégation. On a vu ça, je m'excuse de vous le dire, mais nous avons vu ça, ces tentatives. On en a démasqué 4, je me rappelle, aux béatitudes. On en a démasqué, et il y en a d'autres qu'on n'a pas démasqué. Et dans d'autres, non, je ne parle pas des autres communes. Bon, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Alors, bon. C'est sûr qu'il faut faire très attention. Là, je me rappelle une fois, on avait été chez un prêtre, et qu'est-ce qui se passait dans ce presbytère? C'était le prêtre de Manoir, enfin, c'était le prêtre de Perpignan. Mais... c'est pas. C'était affreux. Et en fait, il y avait eu effectivement une enfant qui avait été sacrifiée. Et dans un rituel occulte, la pédocriminalité occulte. Oh, ça se passe de manière innocente, hein. C'est pour le bien, hein. Les gens font ça en toute bonne conscience, hein. C'est pour le bien, hein. Bon, peu importe, je laisse tomber l'état de conscience de ceux qui font ça. Mais la victime, elle, ça faisait 120 ans à peu près qu'elle était là.
120 ans, elle était encore là. Personne,
oui, parce que quand tu consacres que... c'est pour que le cri, le sang, etc., soit attaché à ce lieu et serve d'instrument, j'allais dire, de sacrement, si vous préférez, à la puissance de Satan dans ce lieu. Et tant que tu ne l'as pas repéré, bon, eh ben, on a demandé pardon à cette pauvre fille, que personne, pourtant dans un presbytère quand même. Et bon, on l'a fait, bien sûr. Bon, elle nous a exprimé ensuite sa gratitude, puis elle est partie. Mais bien sûr qu'il faut, c'est des victimes. C'est des victimes. C'est sûr qu'il y a eu le sacrifice rituel du Bataclan. C'est un sacrifice rituel. Hein. Ne faites aucune espèce d'illusion. Hein. Et c'est un sacrifice à Satan. Seulement, c'est la première fois que ça prend cette figure. Vous voyez que d'habitude ça se fait un à un, mais ça se fait collectif. Il y en a déjà eu. mais là, c'est presque ouvertement, quoi. Et si vous voulez avoir une petite intelligence de ce que ça représente sur le plan des champs morphogénétiques de la communauté humaine, il y a un livre que vous devriez lire. C'est le bouc émissaire de René Girard. Lisez le bouc émissaire. Et von Clausewitz, son dernier bouquin, von Clausewitz. La guerre. René Girard, c'est limpide. C'est limpide. Vous avez tous les mécanismes souterrains des champs morphogénétiques de la communauté humaine. Comment se constitue une unité solide et durable dans une communauté humaine? C'est à cause de ça qu'on peut faire des sacrifices rituels, individuels ou collectifs, pour consolider, hein, pour consolider une unité collective, familiale, fraternelle, celle d'un atelier, ou celle d'une action collective, ou politique. C'est des mécanismes qui sont souterrains, mais qui ont leur loi. Un peu comme les veines, le sang et tous les circuits nerveux et le squelette constituent quand même quelque chose, des innervations mutuelles pour la solidité du corps humain. Et pour son unité, c'est pareil, il y a des lois analogues. Pour un Yetzer Hara, c'est-à-dire pour une communauté humaine dans le mal. Et la guerre eschatologique, elle est basée sur ces connaissances-là. Et face à cette guerre eschatologique, il y a le corps mystique de l'Église. Ça va?
Ça pourrait aller mieux.
Hein?
Ça pourrait aller mieux.
Ça pourrait être pire, oui.
Ça pourrait être pire aussi. Hein?
Mais nous, on s'en fiche, puisqu'on sait très très bien... Contrairement à ce qu'a dit ce monsieur là à ma gauche, qui est un garçon charmant apparemment, je comprends son scandale, mais je sais que l'Église est infaillible. Et puis qu'elle sait une à une les pas qu'elle doit faire dans la grâce. Et que si je mets la charrue avant les bœufs, c'est sûr que j'ai perdu la guerre.
C'est la stratégie, ça.
Parce que si je mets la charrue avant les bœufs et que je fonce, il y a la charrue devant et tout, je ne peux plus avancer, je ne peux plus tirer. Et c'est là l'infaillibilité de l'Église. Et nous, on sait, on peut, grâce à la sagesse catholique, se nourrissant de la doctrine infaillible, des mystiques, etc., de l'Église, de la recherche de la vérité totale, on peut voir les éléments. Et c'est le Saint-Esprit qui dirige l'Église. Et on peut voir, avec grâce au Saint-Esprit, qu'effectivement, ce n'est pas si mauvais que ça, que ce ne soit pas encore fait ici, là, parce que, justement, si on le faisait, ça détruirait toute la stratégie, si je puis dire, d'amour de lumière, où on doit respecter, évidemment, d'abord, les priorités de charité, de lumière et de vérité. Est-ce qu'il y a une autre question? J'ai pas répondu, hein. Comment est-ce qu'on fait pour briser une consécration? Alors, entre minuit, Saint-Hildegarde, hein, d'accord? Donc il faut, nous avons toute autorité pour rejeter dans l'aquilon et dans le vide ce qu'ils ont fait dans le plein, ça va? Voilà. Et pour ça, je vous fais référer au livre qui est sorti, qui a été tapé par Sainte Catherine. Je ne sais plus laquelle c'est, celle-là, où on voit les prières de la nuit. Les prières de la nuit. Vous verrez, c'est à la fin de ce livre qu'il y a la prise d'autorité pour la destruction. Pour la destruction, hein, de toutes les conséquences, séquelles, etc., assignations et compagnie, faites aux enfants consacrés à Lucifer par leurs parents. consacrés à leur vénérable, hein, consacrés à leur loge. C'est pas très compliqué, je pense, hein, de toute façon. Je prends autorité, je les adopte, j'arrache hors d'eux, je coupe, etc. Toujours pareil. Mais il y a une formulation qui est proposée. Vous avez un petit livret sur un site catholique. Là. On m'a entendu parler d'un site catholique du net. Catholique du net, je crois. Je crois. Enfin, c'est, en tout cas, c'est pas maçonnique du net, c'est catholique du net. C'est pas bouddhiste du net, c'est catholique. Voilà. Et là, dedans, il y a un petit livre qui s'appelle Combat spirituel. PDF, on m'a dit ça. Et là, on m'a dit que page 42 à 47, il y a une prière pour arracher, hein, une assignation, hein, sur quelqu'un. Il faut le savoir par cœur. Hein, 42, 47, c'est vite appris par cœur. C'est quoi l'autre question?
Je sais pas, vous voulez pas regarder le
livre? Ah non, je sais pas lire.
Celle-là, vous avez
de plus. Non, j'ai eu du problème, là.
Ah, je sais pas si elle vous intéresse ou pas, parce que, bon, il y a deux ou trois questions, mais j'ai l'impression qu'on a déjà...
Comment briser les malédictions qui pèsent sur une famille après un avortement sur mes... Mais ça, on a répondu. Il n'y a pas de malédiction sur une famille où il y a eu un avortement. Comment briser une malédiction? Il n'y a pas de malédiction. Personne n'a dit du mal, et nous on dit du bien, parce que, et on s'en réjouit parce que cet enfant existe, il est vivant, et ça fait un enfant de Dieu de plus pour la gloire et glorifier Dieu éternellement. Donc il n'y a pas de malédiction, puisque Dieu l'a créé dans le oui et l'innocence divine. Donc il n'y a qu'une bénédiction pour un enfant avorté. La malédiction n'existe pas. Comprenez bien qu'il n'y a pas de malédiction dans la famille ou un avortement. Enfin, il y a un manque de charité. D'accord. Il y a une chose à faire, il y a une mission à accomplir, il y a une sainteté à actuer. D'accord. Il n'y a pas de malédiction. Qui a prononcé la malédiction? Personne n'a dit du mal. Sauf la névrose, des séquelles négatives, de la conscience de culpabilité. Hein? Donc, agapé pneumothérapie, numéro 8 et 9. Délivrance des séquelles et des conséquences négatives de la conscience de culpabilité. Vous devez tous faire ça quand même, au moins une fois dans votre vie. Hein? Vous débarrasser des conséquences négatives de la conscience de culpabilité. Parce que ça, la conscience de culpabilité, c'est spirituel pour le coup. Hein. C'est pas le sentiment de culpabilité, c'est psychologique. Hein. C'est désastreux, hein, les conséquences négatives du sentiment de culpabilité. Mais c'est désastreux psychologiquement. Ça fait des gens tordus. Hein. Oh, je suis très psychotique, névrotique, vite, prosactique. Mais c'est psy. Tandis que quand c'est les conséquences négatives, les séquelles négatives de la conscience de culpabilité, attention, ça c'est spirituel. Alors il faut se débarrasser. Hein. Agapé pneumatothérapie. Arrêtez avec ces agapé-thérapies psycho-métapsychiques, parce que, soi-disant spirituel, puis on m'a fait intervenir en plus la bénédiction chrétienne dessus. Pneumatos surnaturel, s'il vous plaît. Le combat porte sur plan surnaturel dans la métaphysique du corps, de l'âme et de l'esprit. Pneumatos surnaturel. Si vous avez fait 20 ans d'agapé-thérapie, vous avez perdu 20 ans. Pendant 20 ans, vous avez réparé tous les problèmes qui sont venus de votre... Voilà. Hein? Non, mais... Oh, vous avez perdu là 20 siècles, parce que quelquefois vous remontez à des siècles. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Comment intégrer les enfants à la communion eucharistique? Je crois qu'on l'a dit. Comment faire les faire participer à chaque sacrement et leur permettre de participer au salut du monde? Je crois qu'on l'a dit.
Il y en a une dernière.
René Girard, bon. Question. À la création, existe-t-il dans... À la création... Existe-t-il dans l'essence humaine advenue la masculinité, la féminité? Cette question se pose pour répondre à l'affirmation de certains que nous sommes sans sexe masculin, féminin dès le départ. Ben alors, attendez. Attendez. Dans le génome, lorsque le voile mitotique, l'ADN mitochondrial, qui d'ailleurs s'illumine en fulgurant et en séparant pour faire l'amphyxie, c'est-à-dire le mélange de toutes les séquences génétiques, déjà, on sait si c'est XX ou XY qui apparaîtra. Donc la masculinité et la féminité n'apparaissent pas à la constitution en 1 milliard de secondes du nouveau génome. On sait déjà avant. N'est-ce pas vrai? Monsieur le docteur en médecine? Très bien. Donc non seulement elle n'apparaît pas après, mais elle existe, elle détermine déjà avant. On sait déjà quelle sera la masculinité et la féminité de cet embryon, alors qu'il n'existe pas encore dans le génome. Est-ce vrai, docteur? Ok. Est-ce qu'il y a une autre question? Qu'est-ce que vous avez travaillé cette nuit? Vous avez une effervescence. Que deviennent les corps des enfants avortés dans les hôpitaux? Ah ben, ça part dans les cosmétiques. 80% des cosmétiques sont faits avec des organes biologiques qui viennent des avortements. Si bien que tous ceux qui mettent leur rimmel, leur machin, etc., participent directement à l'avortement. Et d'après la Sainte Église, toute participation directe et sans voile à l'avortement opère l'excommunication ipso facto. Donc j'engage les femmes à ne jamais mettre de rimmel ou autre produit cosmétique, à moins d'avoir vérifié avant que c'est dans le cas des 12% où il n'y a pas d'extrait biologique, qui tous viennent d'un enfant avorté. Quiconque continuerait le sachant, eh bien, il est excommunié ipso facto par un décret infaillible du Saint-Père, écrit noir sur blanc dans un Visionum Vitae. Vous le saviez tous, je ne sais pas, messieurs, mesdames. Non, vous inquiétez pas, c'est pas des extraits biologiques de l'hippopotame. Non.
Dès qu'il y a extraits biologiques, ça vient de ça.
Mais oui. C'est même pas sûr. Mais vous êtes belles, mesdames, sans peinture abortive. Est-ce qu'il y a une autre question?
Il y a ça, cette phrase-là.
Ah, guérison de l'arbre généalogique. Est-ce que ça sert à quelque chose, la guérison de l'arbre généalogique? Réponse. Permettez, il y a eu des bouquins. Il y en a des bouquins, là. Alors, moi, personnellement, je suis philosophe, d'accord? Donc, c'est le réalisme qui compte, pas l'imagination. Donc, il faut exorciser toute imagination, à tout prix. Mais, ceci étant, il y a quand même un support réel, il y a quand même quelque chose de réel. Je suis issu de ma mère est elle-même issue de sa mère, etc. Bon, et on monte comme ça, hein. Je veux dire, il y a une mémoire d'humanité, je descends d'Abraham. Hein. La preuve, le roi de France, il descend d'Abraham par Jacob. Hein. Et même le roi David, et même ça se rencontre avec la tribu de Gad. Et en plus, par le jumeau du fils de Jacob. Donc quand même, et puis il y a une bénédiction, et c'est sur 1000 générations. Enfin bref, il y a quelque chose qui suit quand même. Il y a du réel, c'est évident que c'est du réel. Heureusement qu'il y a l'Immaculée Conception, parce que l'Immaculée Conception, elle lave 1000 fois, 1000 générations. Donc c'est pas la peine de prendre une génération. Ah, oh, il y a eu ici à la 20e génération. Ah, oh, ici, il y a un truc à 18. Ah, oh, ici, il y a un cousin germain, des cousins germains de la belle-sœur de la putain qui a fait le bâtard de la 14e génération. Attention, hein. Alors, vous pouvez, ça peut durer 20 siècles de thérapie, vous n'aurez pas fini, hein. Sur la psychologie, vous n'aurez jamais fini, même au bout d'un siècle, sans vous arrêter, en prenant exactement ce qui, en faisant exactement ce qu'il y a à faire, une chose après l'autre. Bon, soyons réalistes. Soyons réalistes. Moi, il me semble que le seul réalisme, si vous avez écouté Alexandra, docteur Caudorion, Alexandra, là, voilà, l'autre jour à son émission pour expliquer bon, qu'est-ce qui se passe, il me dit, mais attendez, quand vous faites, quand vous êtes un embryon, enfin, quand vous venez d'apparaître à la vie, quand vous êtes un être humain, vous avez, voilà, il n'y a pas que le génome qui fait que vous êtes ce que vous êtes. Là. Les déterminations de votre personnalité, même spirituelle, et en tout cas biologique, et en tout cas du corps animé métaphysiquement, les déterminations principales ne sont pas nécessairement le génome. Et il y a d'autres déterminations qui ont une importance dans le conditionnement de votre personne, de ce que vous êtes dans votre personne, et du conditionnement aussi de votre acquiescement à votre mission, bah, on le voit bien. Hein. L'Immaculée Conception est bien sortie de quelque chose qui la précède. Alors, et elle disait, biologiquement, dis-moi, je suis une femme, voilà. Là, dans la salle, il y a une femme, très bien. Eh bien, les autres, c'est des hommes. Bon, eh bien, on n'est que deux à avoir porté des choses extraordinaires. Parce que si on peut faire un génome, si on peut fabriquer à nouveau un clone, si on veut fabriquer une copie avec un clone, etc., on peut le faire. Mais ce que nous portons, personne, jamais, ne pourra le produire. Les ovules. Personne ne pourra créer des ovules. Personne ne pourra jamais créer ce que nous, les femmes, nous portons. Et les ovules que les ovules que je porte aujourd'hui et qui ont donné naissance à mes 5 enfants et les ovules que je porte qui donneront naissance peut-être aux enfants qui vont venir, je les portais tous sans exception avant de naître. Donc quand j'étais dans le ventre maternel de ma mère, c'est ma mère qui a créé ces ovules, hein, dans mon corps de petit embryon. Et donc nous avons été deux à créer, et avec l'influence maternelle bien sûr, de l'ovule que je suis. Donc ça remonte à la grand-mère. Donc chaque ovule est déterminé par 3 générations biologiquement parlant. Et c'est ça, disait-elle, et ça, ils sont tous là. Il n'y a pas un seul ovule qui est constitué après la naissance d'une petite fille. Pas un seul. N'est-ce pas, docteur ? Bon, vous voyez, finalement, j'ai bien suivi vos leçons. Hein. Et donc, le professeur Alexandre Acht, salpêtrière, un des plus grands chercheurs internationaux sur la génétique, etc., bah, dit ceci, que l'ovule apporte la détermination individuelle, d'individuation et de personnalité, etc., principale, c'est pas le génome. Le génome apporte de quoi faire l'unité dans l'un, spirituellement parlant, de tout le complexe de la personne. Ça va ? Ben, l'ovule, il n'y a pas de génome dans l'ovule. Voilà. Donc attention, et ça, personne ne pourra jamais le créer, le produire. Un clone, on pourra. Mais pas ça. Voilà. Donc attention, donc si on veut faire un clone, ce ne sera jamais une copie. Parce que la détermination principale, elle vient sur 3 générations avant déjà. Et ce sera toujours deux ovules différents de toute façon. Moi, je l'aime bien, Alexandra. C'est une copine de mon frère jumeau. Elle est chouette, hein? Et ma mère, quand elle l'a vue, elle dit « Mais elle est charmante !» Elle dit « Maman, elle est mariée. » Et ce n'est pas les seules choses qui font la nature personnelle, métaphysique et spirituelle de l'être humain, j'allais dire comme instrument dans l'unité du corps, de l'âme et de l'esprit. Il n'y a pas que l'ovule. Et le génome. Et il y a aussi les mitochondries, etc. Enfin bref, je n'ai... Mais vous n'êtes pas besoin de passer sous la table. Et je trouve ça très bien. Là, je préfère, voyez, passer par le support matériel. Pour nous, le salut est dans le corps de l'homme. Le Verbe de Dieu est venu déterminer, imprégner hypostatiquement le corps de l'homme. Donc arrêtez de passer par les trucs métapsychico dingo, des blessures généalogiques. Les initiés tels que le docteur...
Celle-là que vous avez ramassé. Hein. Bon, ça fait rien.
Les initiés tels le docteur... Alors là, vous avez un coup de...
Merci, Simon.
Pour la France, qui ont élaboré le projet de loi sur l'IVG, ont-ils organisé leur stratégie sur la base d'un projet de sacrifice rituel à Satan ? Le docteur avait été grand maître du Grand Orient de France. M'en fous, que ce soit du Grand Orient de France ou n'importe quel autre atelier, c'est toujours la pieuvre noire. C'est un seul corps mystique irrigué par un seul sang, celui de la pieuvre noire et de Lucifer. L'Église les considère tous, comme appartenant à un seul corps mystique, quel que soit. Donc, alors maintenant, lui, le docteur a élaboré le projet de loi.
C'est celle-là maintenant.
Non, je n'ai pas répondu à la question.
Ah bon, pardon. C'est moi.
Vous allez exaspérer les personnes qui ont posé la question. Est-ce qu'il a organisé sa stratégie sur la base d'un projet de sacrifice rituel à Satan ? Évidemment. Évidemment, ça fait partie de la guerre eschatologique. Ceux qui sont ici, qui nous écoutent, sont censés avoir assimilé votre première interview, votre seconde interview, votre troisième interview et votre quatrième interview, ainsi que la cinquième interview, dans laquelle la réponse est donnée à cette question. Donc, nous ne partons pas à partir de rien. Nous prenons la suite de ces interviews sur M et le troisième secret. La guerre contre la procréation est une guerre eschatologique. Et elle est menée par des affidés qui savent ce qu'ils font, bien sûr. Et chaque étape compte. Et eux, ils respectent les étapes. Et l'Église aussi respecte les étapes. Elle fait ce qu'il faut, bien sûr. Hein. Dès que, à la 74, c'est vrai qu'il y a eu cette loi donc, pour la France de 1974, elle ne pouvait pas être votée avant qu'il y ait eu un schikutzmeshom sur les sacrements qui touchent le corps de l'Église. Tant qu'on n'avait pas dévasté l'engendrement dans le corps du Christ, du pouvoir épiscopal, sacerdotal et eucharistique, dans sa force de communion unitive de la paix dans le monde, il était impossible de sortir la loi donc, sur la destruction de la présence, de la ressemblance divine de Dieu avant la naissance. C'était impossible. Et tout ça est expliqué, bien sûr, dans la quatrième interview que vous avez magistralement dirigée. Alors, bien sûr, mais bien sûr, vous comprenez bien que c'est extraordinaire, 200 milliards, du coup ça a marché, hein, 200 milliards c'est pas rien, hein. Il n'y a que 7 milliards de survivants ayant le même âge, 200 milliards à côté, avec leur cri silencieux, cri de mort. Cri silencieux, cri de mort. Tu te rends compte, la Terre tout entière, pour chaque personne survivante, tu vois ça? Ça fait quoi? Ça fait chacun doit porter combien alors? Je sais pas moi. Excusez-moi, 300 200 divisé par 7, ça fait quoi? 3 fois 3, 30. C'est énorme. Pour chaque être humain sur la Terre, on doit porter 30, le poids de 30 cris de mort. De 30 cris de mort continuellement, continuellement, d'incompréhension, de confusion. Et c'est... Oui, mon j'ai la gratitude d'exister, mais ma vie. C'est la gratitude d'exister, c'est sûr, mais ma vie. Et ça, c'est un poids métaphysique étonnant. Et qui pèse. Son cri de mort et de soif, de détresse et d'absence de réponse. Et c'est sûr que c'est l'intention des affidés de Lucifer. Vous trouverez ça, je crois. Il y a un site qui s'appelle le site catholique du Et il y a une page très intéressante, vous verrez. Je l'ai aperçu, figurez-vous, il n'y a pas si longtemps ça, il y a 3-4 jours. Il y a un truc qui a marqué non-né à un endroit. Ah, vous tombez sur la page non-né. Ah, et dedans, mais dis-donc, il y a une page complètement dingue. Une page complètement dingue. Qui explique ça, justement, tiens? Qui explique pourquoi l'intention métaphysique collective dans le combat eschatologique, de l'effet que ça produit sur les champs morphogénétiques de la surface de la Terre, ce cri silencieux qui domine toutes les consciences humaines morphogénétiquement parlant. Et on est quand même sacrément enveloppé. Hein.
Elle va veiller,
c'est 75. 74. Plus. Oui. Alors, il y a 200... on corrige l'orateur.
Non.
Je rajoute.
Ouais. Il y a...
Il y a 220 000 par jour dans le monde, minimum statistique de l'ONU. Mais où? Dans le monde? Dans le monde. Dans le monde. Dans le monde. Négatif. Puisque si je vous dis 200 milliards en... 40 ans, si c'est une péréquation, ça fait 5 milliards par an. Donc 200 000, on est loin.
En France.
Par jour. Ah, par jour.
C'était pas marqué sur le papier.
Bon, moi, j'ai pas ma calculatrice, alors.
Moi, j'ai l'impression qu'on a un peu répondu à certaines questions. Mais bon.
Les enfants non-nés sont encore vivants par les cellules staminales embryonnaires dans leur maman, oui ou non?
Vous en avez parlé.
Les enfants non-nés, c'est pas parce qu'ils sont non-nés qu'ils sont morts. Bon.
Vous en avez déjà parlé.
Bon, par exemple, vous avez un enfant, d'accord? Et puis, voilà.
Bon.
80 millions par an. 200 divisé par 40.
Sur la base de 220 000 enfants. Enfin...
200 milliards d'avortements divisé par 40 ans.
Ah non, c'est pas ça,
220 milliards divisé par 40.
Marie.
Vous êtes sourds, quoi. Ah, les ingénieurs, EDF, GDF, ça paye. Hein. Hein, plein gaz. Hein. comprenez pourquoi les centrales nucléaires ne marchent pas. Quoi. Moi, je vais me syndicaliser si ça continue. Hein? 5 milliards par an, c'est ce que je disais. Bon, alors, divisé par 100, divisé par 365. Ben, on a perdu la guerre avec vous. Hein, c'est pas vrai. C'est parce qu'il faut tirer immédiatement. Hein. Hein, attention, bon alors. Attention.
J'aime bien chaque
guerre. Bon, si moi je mets au monde des enfants, c'est toujours au 7e mois. Hein. Toujours. Allez hop, ça n'est pas. Très bien. Bizarre, tiens, celui-là, 8e mois, il y a encore. 9e mois, il y a encore. Très bien. Donc, au 8e mois, il est toujours pas né. Au 9e mois, il est toujours pas né. C'est un non-né, mais il vit encore. Écoutez, on n'est pas autorisé à être idiot. D'accord. Donc, la mort, c'est quoi la mort ?
C'est l'entrée dans la vie.
La mort, c'est pas la mort. C'est pas le médecin qui va nous dire ce que c'est que la mort, quand même. Ce médecin, il n'en sait strictement rien. Il peut savoir, tiens, que les ondes cérébrales sont là. Les ondes cardiaques ici. Je me rappelle, j'avais été voir le vieux père Emmanuel qui était dans son lit à l'hôpital là-bas, à Nice. Et il y avait tous les écrans. Et puis le cardiaque. Et puis il y en avait un troisième, je ne sais pas à quoi il servait. Je ne sais plus. Bon. Et puis. Ah, maintenant que tu es là. Bon. Tu le sais, ça ne me fait pas trop plaisir. Je dis oui, je sais mon père, mais bon, je viens vous voir quand même. Bon, alors écoute, je profite de tout cela, je vais te dire deux, trois petites choses. Et, dis mon père, je suis venu voir si vous allez bien, et je vais te dire deux, trois petites choses. Je pense que c'est important. J'avais pas eu du tout envie qu'il me dise ces deux, trois petites choses, parce que... Et d'un seul coup, je vois les écrans. Je vois les écrans. Je dis, oh, vous savez, mon père, je crois pas. Ah, mais je te dis. À ce moment-là... Premier écran, en même temps. Deuxième écran, le cœur. Je te dis. Je regarde les écrans. Dis mon père, arrêtez. Arrêtez. Vous allez mourir. C'était pas idiot ce point-là, mais enfin, j'en ai profité. Alors, je dis, il me dit, écoute Patrick, quand on va voir un malade, on ne regarde pas les écrans, c'est le malade qu'on regarde, pour voir s'il est encore vivant. Bref, le médecin, lui, il considère que la mort est là, dès que le cerveau n'a plus aucun mouvement. Bien sûr, on peut faire revenir le massage cardiaque, tout ce que vous voulez, ni le cœur. Et puis le troisième, mais c'est pour le troisième, il faudrait demander les trois signes. Hein. Il y a trois signes, les trois ensemble, ça y est, il est mort. Voilà, vous pouvez mettre la cravate. Vous pouvez enlever le masque, c'est fini, terminé. On ne peut plus rien faire. Terminé, on ne peut plus faire. Hein ?
On ne sait pas le drame.
Oui.
Cérébral et médical.
Oui, c'est ça, il y en a trois. Alors là, je peux signer l'avis de décès. Est-ce que l'âme est sortie du corps ? Réponse, non. Qui est-ce qui l'a dit ? Le pape Karol Wojtyla, dès 24 février 1998, a indiqué que c'est l'âme spirituelle qui imprègne et vivifie le génome de l'homme. Il n'y a aucun appareil pour déterminer s'il y a encore la vivification de la mémoire ADI dans le génome. Il n'y a aucun instrument. Et pour cause, parce qu'on pourrait faire l'instrument, mais ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas. Ils ne veulent pas le faire. Eh oui, et donc l'âme reste toujours là, présente, pour retrouver, c'est là ça la providence extraordinaire de Dieu, pour retrouver cet état de liberté qu'elle avait perdu, parce que son cœur fonctionnait, son cerveau et son mental. Et tout court, par une miséricorde inouïe de Dieu, l'âme retrouve sa lucidité, sa liberté embryonnaire, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, pour y arriver, quelquefois, si les gens se réveillaient un tout petit peu quand même, lorsque les deux ne fonctionnent pas, puis un quand même, on se réveille, il y a eu quand même, toute notre vie est passée, et puis hop, tiens, on est quand même réveillé parce qu'on m'a fait un message cardiaque. Mais en fait, c'est parce que c'est un mouvement intérieur de l'âme qui se restitue. Et puis, le capital de l'âme, c'est un capital de vie. Il est très, très, très limité avant de sortir. Donc, il rentre dans ce qu'il y a de plus petit du point de vue de l'animation et principal au point de vue métaphysique, qui met toutes ses forces. Et donc, c'est la mémoire ADI qui fonctionne mieux. Et donc, uniquement le génome qui est encore vivant. Et donc, je m'excuse, mais ça revient toujours au même, hein, d'accord ? On est toujours dans, dans la même configuration. Et il y a des gens qui disent quand je serai mort, passez-moi à la crémation. Je peux vous dire, moi, quand il passe à la crémation, l'âme est encore là. Et elle vivifie et anime le corps entier. Alors vous me direz, Jeanne d'Arc est bien passée par là. Mais quand c'est ton enfant qui te fait ça, ton époux, ton épouse, même si tu l'as demandé, vous voyez que c'est un acte sacrilège par rapport à l'existence initiale, primordiale, créatrice de cette personne qui est ton propre enfant, ton propre mari, ton propre... C'est terrible, c'est génial le démon. Il arrive à décrocher le début et décrocher la fin. Je vais le prendre pour lui. Et voilà, en avant. C'est incroyable. Et c'est ça, vous voyez, vous avez quand même les deux axes. Hein. Et donc, en fait, l'âme est toujours là. Moi, je peux vous le dire, quand c'est un peu pas le métier, mais c'est le service du prêtre, quoi, qui va voir les personnes quand elles sont âgées et qu'elles sont en train de mourir. Et lorsqu'elles sont décédées, je vous le dis, je peux le savoir, moi, quand elles sont décédées, si je peux donner les derniers sacrements, si l'âme y est encore. Cliniquement, la personne, le médecin, il dit, il est mort, habite décédé. Je dis, ça, vous pouvez vous torcher avec. Le prêtre est quand même capable de voir si l'âme est encore dans le corps. S'il ne s'est pas capable de le voir, il faut surtout pas qu'il soit prêtre. Il n'y a qu'à faire bouddhiste, parce qu'on se brûle hein, quand on est bouddhiste. Alors la crémation, en avant, ben voilà, pourquoi pas. Donc, attention. Et donc, il y a, bien sûr, d'accord, tes oreilles ne fonctionnent pas, hein, ta conscience réflexive ne fonctionne pas, mais ta capacité spirituelle réceptive fonctionne très bien, ta passivité spirituelle disponible fonctionne très bien, ton acquiescement à ce que tu reçois fonctionne très bien. Hein? Et pourquoi, j'ai bien répondu à la question là ?
dans le catéchisme de l'Église, l'Église n'est pas formelle à ce sujet.
Ah non, attendez, j'ai pas fini. Les enfants non-nés sont encore vivants par les cellules staminales embryonnaires dans leur maman. Oui ou non? Eh ben, c'est pareil, je veux dire. Donc, les enfants non-nés n'ont pas de circulation cérébrale, n'ont pas de circulation cardiaque, et n'ont pas de circulation mentale, mais ils ont encore une vie de l'âme dans la terre du temps. Point. À la ligne. Je veux dire, c'est très simple tout ça. Dès lors que vous avez le principe de la démonstration métaphysique de l'existence de l'âme dans le corps embryonnaire et l'instant exact, etc. Après, vous comprenez tout le reste. C'est pour ça que tout est suspendu à la démonstration métaphysique irrenversable de l'existence de l'âme spirituelle créée par Dieu dès le premier génome. Et voilà, c'est suspendu à ça. Tout est suspendu à ça. En fait, tout est suspendu à ça. Donc si on a fait perdre 30 ans à l'humanité et à l'Église pour que ça ne se dise pas, pour que ça ne se sache pas, ça fait 30 sur 40 quand même. Hein. Écoute. Oui. Non, mais oui, mais catéchisme, c'est pas le catéchisme, le livre noir, là. Oui, le livre noir, oui. Ah oui, le livre noir, oui. Il fait par l'évêque de Tours, là.
Non, le catéchisme, c'est l'Église catholique.
Catholique, oui. Oui, c'est toléré. Imaginez, par exemple, on le tolère, mais ça veut pas dire que tu fais ça le lendemain. Attends. Au minimum, si tu le crémationnes, attends au minimum une semaine, enfin.
J'ai une information à dire sur la crémation. C'est quelqu'un qui travaillait là-bas, et deux ou trois fois par an, il voyait les cercueils qui se cabraient. C'est-à-dire
le bois.
Non, c'est pas le bois, c'est parce qu'ils sont tous faits de la même manière. Et avec le corps, et quand ils brûlaient, ils brûlent normalement, il y en a des dizaines et des dizaines tous les jours, mais deux, trois fois par an, il a vu les cercueils qui se levaient dedans, du coup il a arrêté de travailler.
Et à l'intérieur du cercueil, le feu te prend, et là, tu te capes dedans, le cercueil, c'est un phénomène du corps total face à un feu violent. Ça opère c'est vrai, ça opère cet instinct-là, hein, donc c'est tout à fait normal, en effet, ça fait pas plus mal que de recevoir une balle de mitrailleuse dans la tête. Bon, ça dure pas longtemps. Ça dure quoi? Tu brûles, hein? Tu grilles en 4 secondes. Bon.
Non, j'ai eu des témoignages de gens qui étaient à l'œuvre. Et justement, ils m'ont fait le témoignage il y a pas longtemps. J'ai participé, enfin, je suis allé. Ils disaient qu'il y avait un souci. C'est que ça mettait de plus en plus de temps à ce que la totalité, donc le cercueil et le corps de la personne, soient ensemble. Et ça a posé problème. Parce que ça faisait de l'énergie en plus à dépenser, etc. Alors
c'est un plan
très technique. Hein. Lui, il a dit ça brûle comme ça, etc. Il en a de plus en plus. Il avait traité mon médecin. J'avais fait 3 ans d'eau, mais. Ça m'a convaincu.
Non, mais écoutez, je m'excuse, quand quelqu'un meurt, il faut se préoccuper de son âme, s'il vous plaît bien. Il faut lui donner les derniers sacrements. Il ne faut pas lui cacher qu'il va mourir. Oh, le pauvre, si on va lui dire qu'il est en train de mourir. Le pauvre, vite la morphine pour qu'il n'ait pas l'impression qu'il va mourir. Vite les états seconds. Vite le matin, vite le comment est-ce que tu appelles ça? Ouais, sédatif, d'accord. Et comme ça, il se rend pas compte qu'il meurt. Ah, moi, j'ai vu ça, j'ai une jumelle qui a fait en sorte que sa jumelle meurt sans qu'elle sache. Elle était la seule sur 800 personnes qui ne savaient pas qu'elle allait mourir dans une heure. Elle ne savait pas qu'elle allait mourir. Parce que ça l'aurait fait souffrir. On lui a arraché sa mort. La mort nous appartient, elle appartient à manière. Oh, ça nous ferait souffrir de savoir qu'elle ait souffert. Mais on s'occupe quand même de quoi? On s'occupe, on l'aime ou on l'aime pas? Si on l'aime, attends, on a confiance, on est responsable de notre vie, de notre mort, on prend pleine possession de nous-mêmes dans la vie et dans la mort. Donc de refuser la vie à quelqu'un au moment même de sa mort, ça veut dire qu'il y a une haine féroce métaphysique contre elle. C'est parce qu'on est entièrement psy. Oui ou non? Et donc quand même, la première chose, la seule chose à faire, make a good confession, good communion, come back, c'est tout. Voilà, le sacrement. Et, si, et moi je vous assure, on va là, et il y a quelque chose qui fait, que vous soyez prêtre ou pas prêtre, c'est pas grave. La personne, elle est censée être décédée, c'est évidemment pas vrai. Hein, bon, mais ça va. Et je vois les familles qui les laissent comme ça, là, dans le... Comment est-ce que vous appelez ça, là, le... C'est incroyable. Alors qu'il suffit de se mettre, à côté, vous voyez tout de suite si elle est là. Ça, vous le voyez, hein, de toute façon, hein, vous inquiétez pas, ça se perçoit assez vite. Hein. Et pourquoi? Parce que, bon, surtout si vous avez l'habitude d'être maman ou papa, parce que vous savez si un enfant est là ou pas, hein, par exemple. Bon. Et là, c'est pareil. Donc, voilà, bon, du coup, tu pries, tu t'aperçois qu'il y a la réponse, parce que la prière, c'est de la lumière, hein, donc on prie en deux, dans l'unité des deux, tu vois très bien si tu es tout seul ou bien si on est deux à prier, c'est tout. Hein. Vous n'êtes jamais mort de votre vie? Est-ce que quelqu'un a fait l'expérience de la mort? C'est dommage. Moi, il faudrait que vous priez pour faire l'expérience de la mort. Moi, ça m'est arrivé de faire l'expérience de la mort. C'est pour ça que je vous disais deux fois. Mais je vous assure que quand votre âme s'en va, qu'il ne reste plus rien, pratiquement plus rien, votre capital de vie est en train de disparaître. Ça va partir. Vous croyez que vous ne le savez pas? Et s'il y a quelqu'un qui vient à côté de vous, et il y a le capital de vie tellement anéanti, tellement plus rien, ça va partir. Moi, j'ai vu mourir des ermites et avec le père Emmanuel, ça c'est des choses suaves, suaves. Comment les moines, les religieux, les ermites meurent, quoi, entourés par les autres. C'est délicieux, c'est génial, c'est fou. C'est dingue. Parce qu'un mari et son épouse et ses enfants, c'est « Oh, il ne faut pas qu'il souffre. Oh, je souffre parce qu'il voudrait souffrir. Est-ce qu'il a souffert? Oh, quel bonheur, il n'a pas souffert. » Ouh. Complètement psy.
Ouais.
Alors, tandis que là, la personne vient à côté de vous. Je me rappelle, je dis, mais d'accord, je vais essayer de prier, que je vais essayer de faire. Et toute ma vie, c'est de prier quand même. Donc, en ce moment, pas même pouvoir faire un seul mouvement de disponibilité à la prière. Pas seulement d'actuer une prière, mais de disponibilité à la prière. Ça demande une force. Tu peux pas. Et t'entends le médecin à côté, ah oui, il est déjà à bout là, prenez un petit peu sa tension, enfin, pas besoin de prendre sa tension, le type il est à la fin. Bon, enfin, peu importe, il y a de la famille qui est là, est-ce qu'il souffre docteur, etc. Bon, attends, tu te rends compte, c'est atroce, c'est atroce. Mais par contre, il y a quelqu'un qui s'approche de toi, et tous les psys de service aussi qui arrivent, pour les soins palliatifs, hein. Ça arrive à la fin. Ils font bien attention, hein, que tu ne sois actué en rien sur le plan spirituel, dans tes forces terminales. Hein. Elisabeth Kubler-Ross, attention. La destruction totale de la mort humaine. La transformation métapsychique de la mort humaine en mort métapsychique. C'est fou, quoi, c'est fou. C'est organisé, ça fait partie de la Grèce, c'est sûr. C'est tout un ensemble, c'est tous les champs morphogénétiques, hein, qui engloutissent le spirituel lié au corps dans le monde métapsychique qui peut partir en astral et qui donc est incorporé aux forces de l'Antéchrist. Tout est basé là-dessus. C'est ésotérique, tout ça. Hein. Alors, quelqu'un s'approche et puis... Même si tu ne lui touches pas la main, c'est pas grave. Quelqu'un s'approche de toi et puis il dit « Je vous salue Marie, pleine de grâce. Je vais faire un « Je vous salue Marie ». Je vous salue Marie, grâce mais attention, c'est un jour salut Marie, dont, où c'est la présence, la voix, c'est la présence de Marie, qui reçoit l'Ave Maria de l'ange Gabriel, et alors à ce moment-là, il y a quelqu'un qui a dit un jour salut Marie à côté de moi, je dis enfin, voilà, j'ai pas dit, parce que je pouvais pas, mais il y avait quelqu'un qui priait, et du coup, c'était ma prière. Ça change tout. Ça change tout. Si le sacrement des malades est donné à ce moment-là, ah, je peux vous raconter les 5 fois où c'est arrivé à mon arrière-grand-mère. Ça va? Alors c'est important quand même de donner l'aide de charité, de lumière, de force, de vie à la personne en fonction de ce qu'elle est. Alors autre chose maintenant, avec les moyens contraception, avec les contres peut-être, il y a un dièse, ça veut dire quoi? Avec les dièses, avec les différentes contraceptions abortives, comment une mère peut-elle savoir le nombre d'enfants non nés sortis d'elle? Bon, eh ben, ils vont voir un médium, Madame Soleil. Oui, esprit, es-tu là? Combien y en a-t-il? 3,5. S'il y a eu beaucoup, hein, stérilés, par exemple, moyen contragestif, allez, 4 ou 5 en clinique, 3 ou 4 post-couches, plus le stérilé 6-7 ans, c'est qu'il y en a au moins une quarantaine, de toute façon. Hein. Donc tu peux de toute façon faire une approximation. Tu n'as pas besoin de savoir le nombre exact. Il faut que tu connaisses, que tu aimes chacun d'entre eux. Par exemple, nous étions 20-25 là. Moi je vous aime chacun d'entre vous. Chacun. Est-ce que vous avez un peu d'amour pour moi aussi ou pas? Non, d'accord, bon. Mais moi, je vous aime bien. Mais je reconnais que c'est un peu exaspérant.
Moi, je me demande comment ils arrivent à te supporter. Moi. C'est pour ça que j'ai fait péter tous les écrans. Parce que
Hein? Donc, si vous, avez, vous les aimez, vos enfants. Il y en a 20, 25, qu'est-ce que ça peut faire? Vous les aimez tous et chacun. Eh bien, très bien, prenez un joli coussin couvert de soie, brodé d'or, un sourire dessus, une plume. Un yo-yo sur l'autre coin. Une tétine. Enfin, démerdez-vous. Et chaque soir, vous pensez à un. Et au jour anniversaire, vous inquiétez pas, ils donnent leur nom. Et à la fin de l'année, vous saurez combien il y en a. Amen. C'est pas la seule méthode.
Et vous en occupez pendant 40 ans.
Vous retombez là.
Hein?
Et vous vous en occupez pendant 40 ans. Pour les suivre.
Mais je m'excuse, si tu as eu des enfants toi?
Oh oui.
Ah, tu t'en es occupé juste pendant 6 mois quoi?
Oh, non, non.
Ah d'accord. Alors.
Regrettant comment c'est un peu libre.
Bon. Comment obtenir le prénom de l'enfant? Ah non, mais là, vraiment, vous exagérez, là. Une maman qui a avorté peut-elle baptiser son enfant? Oh, bah, quand même, vous exagérez. À quel moment l'âme spirituelle est-elle créée par Dieu? Bah, je croyais que je l'avais dit.
Mais non, mais c'est ce que je vous dis. Il reste quelques questions. Est-ce que vous avez probablement déjà répondu à ça? Par contre, je ne suis pas sûre.
Ah Mais c'est moi qui fais tout votre boulot.
Non, mais...
Tout le truc pédagogique devant le truc médiatique, c'est que justement c'est vous qui posez, c'est moi qui réponds. C'est tout ce qui fait l'intérêt des auditeurs.
Oui, mais j'ai eu les questions.
Oui, mais si c'est moi, alors donc je vous pose la question, comme ça peut-être que les auditeurs, ça va les intéresser. Et parce que c'est justement c'est l'aspect dynamique de la chose qui fait que c'est intéressant. C'est parce que vous me posez des questions, je réponds.
Oui,
et moi, je vous pose des questions, vous me répondez.
J'aurais pas dû.
Alors, du coup, ça passionne les gens parce qu'ils se retrouvent dans les questions que vous posez ou dans les réponses que vous faites. Vous comprenez?
Oui, mais moi, je veux respecter les gens qui ont écrit les questions.
Ah, bah d'accord. C'est ce que j'avais
alors,
pas compris.
Je ne trie pas.
Donc, vous respectez aussi les auditeurs.
Voilà.
Ceux qui nous
après,
écoutent.
Après, c'est vrai que je devrais des fois me dire bon, là.
Mais évidemment. Bon, alors, et donc c'est ça qu'il faut dire. Hein.
Je sais pas là, si là j'ai l'impression que c'est des questions, peut-être, je sais pas. Regardez-les.
Mais on l'avait déjà lu ça.
On a répondu non.
Non, on l'avait déjà lu. Comment intégrer les enfants à la communion eucharistique? Les enfants d'en est, je suppose. Mm. Bon, alors. Et je vais en profiter pour répondre aussi. Comment intégrer des assistants à la messe qui n'ont pas le droit de communier à la communion eucharistique? Eh oui, vous êtes excommunié, enfin vous n'avez pas le droit de communier, et pourtant vous devez recevoir la communion. Parce que si vous êtes à la messe, c'est pour recevoir la grâce, la bénédiction, la communion, la miséricorde et la présence réelle. Et l'Église est très miséricordieuse puisque elle vous dit ah bon vous n'avez pas le droit de vous approcher matériellement de la communion eucharistique, mais vous êtes prié de venir à la messe, un peu comme pour les catéchumènes, sans vous approcher de la communion matérielle de l'Eucharistie, parce que vous faites partie du corps mystique de l'Église et que vous avez besoin de recevoir la présence réelle de la communion eucharistique. Et donc vous devez la recevoir le plus que vous pouvez, et de préférence, de manière plus, si possible, saint Thomas d'Aquin dirait, au centuple de ceux qui le reçoivent, par intention matérielle dans la bouche. Bon, quand vous assistez à la messe, vous communiez à la présence réelle de Jésus, 5 fois, sinon il n'y a pas de transactuation surnaturelle de la transsubstantiation eucharistique dans les noces de l'agneau de la messe. 5. C'est pas compliqué, c'est toujours 5 pour ça. Vous avez l'habitude. D'ailleurs, vous avez fruit des sacrements où ces choses-là sont explicitées. Un site qui s'appelle, je crois, catholique du net, quelque chose comme ça. Catholique du point net, c'est ça. Point net. Catholique du point net. Fruits des sacrements. Voilà, vous avez ça. Bon, alors, j'assiste, je suis divorcé, par exemple. Voilà. Remarié, bon. Et l'Église me dit, voilà, venez à la messe. Mais bon, pour pas scandaliser les gens qui sont pas censés être au courant que vous vivez comme frère et sœur. Mais on vit comme frère et sœur. Oui, mais les gens sont pas censés être au courant. Donc pour pas scandaliser les faibles, vous vous approchez pas. Sauf si tout le monde est au courant que vous êtes vivant en frère et sœur. Non bon, donc vous n'avez pas le droit de vous approcher pour recevoir la communion. Mais venez quand même, vous allez la recevoir, là, vous la communion, ne vous inquiétez pas. Et donc, il faut que vous appreniez dans votre catéchisme que vous faites à vos enfants, d'ailleurs, qu'il y a 5 manières de communier à la messe. Voilà, d'accord. Alors, voilà, vous mettez à l'intérieur de la patène et vous plongez dans le calice au moment de l'offertoire. Et vous êtes en communion avec l'offertoire qui va devenir le corps du Christ. Ça y est, vous avez communié une première fois. À la transsubstantiation, vous communiez aussi, puisque vous vous vivez ce que l'Esprit Saint fait, une attraction prodigieuse de la transsubstantiation eucharistique en vous, puisque vous rentrez dans l'union hypostatique déchirée de Jésus et vous communiez à la présence réelle de transsubstantiée par la foi, l'espérance et la charité. Puis ensuite vous avez le Notre Père. Et vous avez par ipsum cum ipso au moment où on met la petite au bout de l'hostie pour les noces de l'agneau. Aux noces de l'agneau, vous communierez. Et la présence réelle de cette communion de l'agneau, elle est présente réellement à cet instant de la messe. Donc vous envolez comme la douce colombe vers les noces de l'agneau, vous recevez la communion à ce moment-là. Puis enfin, au moment de la communion matérielle où les gens s'approchent, eh bien vous restez là avec... Vous restez à votre place tranquillement et vous demandez à votre ange gardien de vous amener l'hostie, de vous l'amener et de vous faire communier donc mystiquement à la présence réelle. Et enfin, cinquièmement, l'action de grâce, et c'est ça la communion principale. Pendant que tout le monde est en train après la communion, vous restez là avec ceux qui ont reçu la communion et qui laissent se déployer la disparition des apparences du pain et du vin en eux par la digestion. Et à ce moment-là, la présence réelle qui est en eux se communique à tout le corps mystique présent dans cette église-là. Et vous recevez réellement, substantiellement, la présence réelle elle-même sans le sacrement. Et c'est la présence réelle que vous recevez. Donc il y a cinq manières de communier. Si vous vous approchez en disant « il nous casse les pieds, moi je suis comme frère et sœur, hein, je m'en casse, etc. » Je dis chastement, pas d'un coup fin. Alors, leur jugement, ils se le mettent dans leur poche et je communie. Et du coup, tu reçois rien du tout. Tandis que si tu fais ça, l'Église te dit, si tu t'approches pas, étant donné que tu es quand même marié à quelqu'un d'autre, même si tu... T'es quand même marié devant les hommes, devant Dieu et les hommes. T'es quand même marié devant les enfants. Et donc, il y a quelque chose. Et tu maries quelqu'un qui marie quelqu'un d'autre. Sacramentellement. Alors quand même, donc, si tu t'approches avec un sacrement brisé d'un sacrement qui est là, tu brises dans le sacrement brisé le sacrement qui n'est pas brisé. Et donc, tu ne reçois rien du tout. Tu reçois indignement, et donc tu ne reçois aucune des cinq communions de la messe. Tandis que si tu restes chez toi, si tu restes là, tu reçois dans la présence de la res beaucoup plus, sans aucune comparaison, que celui qui s'est approché matériellement du sacrement en communion, parce que lui, le droit. Et donc toi, tu vis, et tu t'y habitues, à vivre de la communion à la présence réelle du sacrement, et tu le vis, tu peux en être certain. Mais c'est mieux que tous ceux qui s'y sont approchés, puisque tout ton capital de vie, de foi et de communion eucharistique se réalise dans cette communion-là, qui est la communion principale. C'est celle qui est féconde, c'est celle qui donne la vie, c'est celle qui opère la transformation surnaturelle. Et en plus, c'est celle qui t'admise justement à la multiplication dans l'infiniment grand de la communion donnée, partout, toujours, jamais. D'accord ? Donc, si tu fais comme ça, là, tu vas recevoir une communion et ça va t'intégrer au corps mystique de l'Église de manière miséricordieusement beaucoup plus forte que ceux qui s'y approchent matériellement. Sacramentellement, parce que quand il s'approche matériellement, on a un capital de vie qui est limité dans la foi, l'espérance, la charité. Donc on fait très attention qu'au moment où on communie matériel, on fait très attention, on dit amen, on est content, on dit merci Seigneur que l'hostie soit en moi. Bref, on met moins d'action de grâce dans la présence réelle lorsqu'elle apparaît, elle est impure. C'est vrai ça. Donc l'Église, elle ne condamne pas les gens. Elle leur dit comment, par miséricorde, comment il faut faire pour qu'ils reçoivent les bienfaits eucharistiques de cette communion mieux que les autres. C'est pas du tout une condamnation, c'est au contraire une intégration dans quelque chose de plus grand sur le plan de la miséricorde et dans la fécondité universelle du temps et de l'éternité tout de même. L'Église n'a jamais rejeté un pécheur. Jamais. Mais elle indique le chemin. La, par miséricorde. Elle indique. Et pourquoi aussi. Elle explique aussi pourquoi. D'accord ? Eh bien, quand il s'agit des enfants, c'est pareil. Les enfants, eh bien, les enfants, ils sont là, puisque je les emporte avec moi. Je les porte avec moi. Ils me portent. Et donc, ils reçoivent, bien sûr, ces cinq communions, puisque à chaque fois, je dis, tu bénis ceci et mon corps livré pour vous. Et vous vous dites pour vous, ben c'est pour moi, et c'est pour moi, et c'est pour moi, et puis c'est 200 milliards de fois pour tous ceux que je porte en moi. Et donc, vous les faites communier mystiquement aux cinq formes de la présence réelle communiquées par communion, et ils reçoivent exactement de la même manière. C'est une miséricorde prévenante prodigieuse que l'exercice précisément de la nourriture donnée aux enfants non-nés à chaque messe. Et ça, ça prend. Ça, l'Antichrist ne pourra pas l'empêcher, ça. Et c'est ça qui donne la victoire. Ça va ? Vous le savez bien, puisque vous m'excusez, j'ai honte de vous en parler, parce que quand même, je sais que vous faites ça depuis longtemps. Bon, est-ce que vous avez d'autres questions ?
La dernière.
Ah, la dernière.
Comment les faire ? Oui, ben voilà, c'est bon. Vous avez répondu.
Et pareil pour les autres sacrements. D'accord ? Eh oui, vous passez l'indulgence plénière, le jubilé, là, vous passez, tout le mal se détruit en eux, passez-le avec ce que vous portez 200 milliards de fois, et en une fois, vous avez obtenu l'indulgence plénière pour 200 milliards d'enfants, parce qu'il y a du mal aussi en eux, quelque part, puisque le péché originel est là, il y a encore des séquelles du péché originel, et peut-être qu'il n'y a pas eu d'année jubilaire depuis 1975. Du point de vue de la miséricorde jubilaire. Alors, quand même, j'espère que vous y avez pensé, n'est-ce pas ? Donc, il faut que, bien sûr que le mal, avec les séquelles, la peine, les satisfactions et la peine due au péché, tout le mal qui est d'eux et dont ils sont aussi les récepteurs, soit totalement détruit en eux. J'espère que vous l'avez fait. Si vous ne l'avez, si vous l'avez pas fait. Je vous vire.
J'ai une réponse sur le. C'est par jour. Presque. Mais c'est des GDF, allez, je m'excuse, hein, on n'est pas avec l'Esprit Saint tout le temps. Hein. 13 698 000.
Par jour, c'est ça ?
Par jour.
Dans le monde, dans le monde.
Dans le monde. Oui, par rapport à la...
14 millions. Quand on sera 14, ça va, c'est le chemin de croix pour s'ouvrir. C'est le chemin de croix descendre. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et je suis le fruit de vos entrailles, béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.